Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Françoise Varlet, du 15 juin 1994, diffusé le 1er novembre 2015, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonsoir à tous.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux, les ailes des moulins protège les amoureux. Petite mendicante, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre de gosse mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs, oh miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brume, mon rêve évanoui.
Un petit salut à Mouloudji, pour trois raisons. La première, c'est que ben pour moi, il fait partie des grands chanteurs français avec Monsieur Brassens, Monsieur Trenet, puis quelques autres. La deuxième raison, ce qui n'a rien à voir, c'est que c'était un ami de ma maman, un ami d'enfance. Et la troisième raison est curieuse, et en tout cas elle est tout à fait inattendue, il est très peu connu, c'est que Mouloudji, c'est ce garçon qui chantait, qui se disait catholique par sa mère, musulman par son père et juif par son fils, était l'ami de Jeannie Le Pen et était devenu l'ami de Jean-Marie Le Pen. Et je trouve qu'étant donné le portrait qu'on trace de lui sur toutes les radios depuis ce matin, c'était pas inintéressant d'apporter ce petit supplément de vérité, parce qu'on peut pas dire que ça corresponde très exactement à ce qu'on nous raconte de lui. Ça fait partie des nombreux trucages médiatiques auxquels on assiste toujours, et je dois dire que depuis quelque temps, sur ce plan-là, on n'a pas à se plaindre, il y a plutôt pléthore. Pardon, je m'interromps une seconde pour faire entrer un invité. Par exemple, pléthore de fausses informations, ou de désinformations, ou d'informations approximatives, vous avez sans doute entendu dire que, tout récemment, le dimanche dernier, Monsieur Pasqua, ministre de l'Intérieur, s'était rendu à une manifestation organisée par le conseil général du département des Hauts-de-Seine, dont il est président, et pour assister à une manifestation intitulée « Giga la vie ». Alors, je pense que si vous savez ce que ça veut dire, moi, j'en ai pas la moindre idée, et qui était une manifestation contre le sida. Voyez-vous, c'est intéressant, on fait des défilés contre le sida, des manifestations contre le sida, et naturellement, c'est radical, le sida recule tous les jours, terrorisé par le nombre des manifs et des manifestants. Et on a dit que bon, le ministre de l'Intérieur avait été chahuté par les jeunes à l'occasion de cette manifestation. Alors voilà la lettre que j'ai reçue aujourd'hui. Fidèle auditeur de votre radio et exerçant la profession de policier dans les Hauts-de-Seine, je souhaite vous informer de ce qui s'est réellement passé hier dimanche 12 juin dans le quartier de la Défense. Dans le cadre de la manifestation Giga la vie organisée par le conseil général du département des Hauts-de-Seine, un concert rap était au programme avec la présence de 5000 jeunes. Vers 15h, Charles Pasqua a commencé une allocution sous les injures des jeunes. Monsieur Roussel, directeur départemental des polices urbaines des Hauts-de-Seine, s'est fait copieusement injurer par une jeune. La situation devenant explosive, le ministre de l'Intérieur et ses collaborateurs ont quitté précipitamment les lieux. La dizaine d'îlotiers de la Défense, en chemisette d'été, qui étaient dispersés par petits groupes de 2 ou 3, étaient désormais les seuls représentants de l'ordre. Ils ont été livrés en pâture à des bandes ethniques, ivres de rap et de haine raciale anti-française. Vers 17h, un commando de... des mots que je peux pas lire... a saccagé le McDonald's en tentant de s'emparer de la caisse. Une violente bagarre s'en est suivie avec les vigiles, qui s'est étendu au parvis de la Défense. Les binômes ou trinômes d'îlotiers, c'est-à-dire les groupes de 2 ou 3 îlotiers, ont été passés à tabac après avoir reçu des projectiles divers, canettes de bière, barres métalliques, chaises, etc. Un marchand de glace a été agressé à la bombe lacrymogène. La boutique de souvenirs de l'Esplanade a été pillée et saccagée. Les vitres d'un magasin OEA ont été très endommagées. Une cabine téléphonique a été cassée. Et une voiture a été retournée rue Perronnet. En outre, le matériel des organisateurs a été pillé, des bagarres tribales ont éclaté, mais à aucun moment le fond sonore ne s'est interrompu. Bilan, 4 policiers blessés, dont 2 ont reçu plus de 8 jours d'interruption temporaire de travail. La hiérarchie n'a fait appel au renfort de CRS, que l'on n'avait pas envoyé sur place préventivement par peur de provocation policière. La hiérarchie donc n'a fait appel au renfort de CRS qu'en fin d'après-midi, lorsque les casseurs avaient quitté les lieux. Il est à noter, ajoute ce policier, que certains membres de ces commandos ethniques avaient sur eux plusieurs vêtements qu'ils effeuillaient après chaque forfait, de sorte qu'un éventuel signalement devenait impossible. Je souhaite vivement que vous puissiez informer vos auditeurs de la réalité, car les médias officiels ont singulièrement édulcoré cette information à l'heure où j'écris ces lignes. Les policiers de la base dont je fais partie se sentent lâchés par tous et ont besoin du soutien du pays réel, dont Radio Courtoisie est un porte-parole privilégié. Par avance, merci cordialement, un policier. Voilà. Vous pouvez comparer ce témoignage directement de la bouche du cheval, si j'ose dire, ou de la bouche du poulet, enfin comment il faut dire. Vous pouvez comparer avec ce que vous avez lu dans la presse, entendu à la radio et vu à la télévision. Et il faut vous dire que c'est toujours, toujours, toujours comme ça. Toujours. C'est-à-dire que vous n'avez des informations que censurées, réduite quand il s'agit de genre d'affaires comme ça, ou au contraire montée en épingle, gonflée, exagérée quand il s'agit de réactions fort justifiées au demeurant de gens qui sont fatigués d'être pris comme du gibier par les bandes ethniques et qui sont des braves franchouillards qui un jour ou l'autre craquent et se mettent à se défendre. Alors là, ça devient une épouvantable montée du racisme en France, un recours intolérable à l'autodéfense, etc. Voilà. On me demande de parler des élections. Bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit hier dans l'excellente émission de M. Reichmann. C'est pas utile de recommencer les démonstrations. Je crois que les chiffres sont suffisamment éloquents. Et ce que je ne comprends pas, je dois dire, mais je sais pas, je suis peut-être pas très intelligent, c'est que certains amis du Front National font la fine bouche et semblent en vouloir à Villiers. Or, si on analyse bien ce qui s'est passé, depuis 89, le Front National et Jean-Marie Le Pen ont été la cible d'attaques invraisemblables de violence, de bassesse et d'ignominie. Ça a duré, donc, 5 ans. Pendant 5 ans, il s'est pratiquement pas passé de jour, sans que, comme Le Pen le dit lui-même, il ait à avaler son bol de crapaud. Ça s'était un peu calmé sur les derniers jours, parce que les journaux, si vous voulez, c'est comme les fausses sceptiques, de temps en temps, c'est plein. Et là, c'était plein parce que M. Tapie en faisait beaucoup. Donc on pouvait pas, une fois qu'on avait fait le point sur les affaires Tapie, il restait plus de place pour monter des affaires Le Pen, d'autant que les accusations portées contre Le Pen ressemblaient à autant de légions d'honneur par rapport aux affaires imputées à Tapie. Alors on lui a lâché un peu la jambe, mais le fait est que pendant 5 ans, ça n'a pratiquement pas cessé. Malgré ce terrorisme médiatique, Le Pen et le Front National ont confirmé à 80 000 voix près leur score de 1989. Ce qui veut dire que 80 000 voix, c'est pratiquement l'usure normale sur un score de comme celui qui était le score du Front National en 89. C'est absolument normal, ça représente un peu plus de 3%. Donc c'est normal qu'il y ait une érosion. Donc on peut dire que l'électorat est resté parfaitement stable et qu'il a été totalement insensible aux attaques, aux diffamations, à la désinformation, à la contre-information. Là-dessus, Villiers a constitué sa liste L'Autre Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un score de un peu plus de 12%. Autrement dit, ça veut dire que les Français... Le nombre des Français qui osent s'avouer, qui osent avouer leur adhésion aux valeurs défendues depuis 25 ans par le Front National, ce nombre a doublé. Il est passé de 10-12% de la population à 2 fois 10-12%. Pourquoi ça? Tout simplement parce que si les attaques contre Le Pen n'ont pas eu d'effet... comment dirais-je, démobilisateurs sur l'électorat naturel du Front, elles ont eu un effet dissuasif sur des gens qui étaient en gros d'accord avec le Front sur la question des valeurs, mais qui, pour des raisons de bienséance, d'élégance, de conformisme petit bourgeois, n'osaient pas voter pour la bête immonde. Quand Villiers s'est présenté, comme c'est un garçon visiblement bien élevé, qui est plutôt sympathique à regarder, et qui fait jeune homme de bonne famille du bocage, eh bien les réticences que certains Français marquaient à l'égard du Front National, qui est un parti parfois un peu hard, comme on ne dit plus, n'ont pas joué. Ce qui veut dire que l'effet Villiers a consisté à servir en quelque sorte de sas de décontamination pour beaucoup de Français à la droite nationale. Le résultat, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que si on ajoute, comme le fait d'ailleurs Minute cette semaine, la liste du Front National à la liste Le Pen et à la liste Chasse, Pêche et Tradition, qui... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, oui, bien sûr. La liste Le Pen, la liste Villiers et la liste Chasse-Pêche et Tradition, qui en gros rassemble probablement une majorité de gens qui adhèrent aussi aux valeurs traditionnelles et nationales, eh ben on obtient le plus gros score de ces élections. Devant la liste européaniste multicolore de Monsieur Baudis, laquelle liste d'ailleurs, il faut le rappeler, comportait plusieurs personnalités hostiles à l'Europe de Maastricht, si bien qu'il y a un mensonge, comme le souligne très très justement Jean Madiran dans présent, et pas seulement Jean Madiran, mais également Daouda, les Cochets, comme il le souligne dans présent, il y a un mensonge invraisemblable à présenter la liste de Baudis comme une liste européenne, et à présenter et à additionner, ce qui est encore plus incroyable, les résultats de Baudis et de Rocard et de Tapie pour dire que l'adhésion aux idées européennes est majoritaire en France. Parce que il est bien clair que les électeurs de Tapie sont majoritairement des abrutis complets, à peine alphabétisés. On l'a vu à la télévision, chaque fois qu'on a posé des questions à des gens qui s'avéraient avoir voté pour Tapie, ils étaient radicalement incapables d'expliquer pourquoi. Donc c'est du lumpen prolétariat à peine alphabétisé, et par conséquent l'Europe, ils ne savent même pas ce que c'est. Sortis de Marseille, ils ont du mal à connaître la route de Lyon, et c'est bien clair ça, je dis la majorité, il y a peut-être aussi des vicieux qui ont voté pour Tapie. Donc additionner les voix de Tapie à n'importe quelle autre voix, c'est nul. Ensuite, considérer que la totalité de l'électorat de Baudis est un électorat pro-européen, c'est une escroquerie. Donc ce qui ressort de ces élections, c'est que entre la liste Le Pen, la liste Villiers, la liste Chasse, Pêche et Tradition, qui est radicalement anti-européenne, la liste communiste, la liste Chevènement, la liste Laguiller, encore deux ou trois autres listes, la majorité des Français s'est déclarée, la majorité des Français qui ont voté s'est déclarée hostile à l'Europe de Maastricht. Il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que quand on nous présente la liste de Baudis comme liste de la majorité, qui fait, je ne sais pas combien, 23%, je crois, 23 ou 24%, j'ai plus le chiffre exact en tête, eh bien ça veut dire que les électeurs du RPR, plus les électeurs de l'UDF, plus les électeurs centristes, représentent 22 ou 23% des voix. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, pour avoir le score de chaque tendance, il faut répartir, et en admettant que, conformément à la tradition, les centristes fassent 5% des suffrages, il reste que M. Chirac et le RPR ont fait 10% des suffrages au cours de ces européennes, que messieurs Giscard, Léotard, Longuet, Millon et autres dissidents, Rossi et compagnie de l'UDF ont fait 10%. Et par conséquent, contrairement à ce que nous ont dit les journaux, le Front National n'a pas rétrogradé dans le classement des partis en France. Il est toujours le troisième parti de France. Simplement, le premier, c'est le parti de Villiers. Le deuxième, c'est le parti des imbéciles. C'est le parti de Tapie. Mais ça, ça n'étonnera personne. Je suis même surpris, d'ailleurs, qu'il n'y ait que 12% d'imbéciles dans ce pays. Parce qu'après 200 ans de révolution et 50 ans de matraquage post-résistentialiste, qu'il y a encore 88% de gens intelligents, c'est plutôt rassurant, hein, enfin intelligent, de gens qui savent au moins pourquoi ils votent. Donc moi je trouve ces résultats tout à fait satisfaisants, et puis en plus ils sont rigolos comme tout, parce que la conséquence tout à fait probable de ces résultats pour l'instant, c'est qu'il va y avoir au moins 15 candidats aux élections présidentielles. Parce que hier, on a vu M. Giscard d'Estaing, il veut être candidat. Mais s'il a 15% au sondage, et d'ailleurs, tiens, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez rigoler, si vous êtes sondé, dites que vous voterez Giscard. Il faut truquer les sondages de Giscard, il faut les saboter. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen de s'amuser. Giscard a annoncé qu'il allait se présenter, il a pas annoncé, mais enfin, c'est clair, qu'à partir de 15% d'avis favorables dans les sondages, il se présentera. Donc il faut qu'il se présente. Il faut qu'il y ait le maximum de candidats dans cette élection. Autrement, on peut pas rigoler. La démocratie, quand même, c'est tellement cochon qu'il faut bien qu'on s'amuse de temps en temps. Donc, 15% pour Monsieur Giscard d'Estaing. Voilà. Il faut ça. Il va se présenter. Monsieur Barre a dit qu'il allait se présenter, parce qu'il peut plus supporter le microcosme, et donc il va se présenter. Il est bien possible que, du coup, Monsieur Villiers décide de se présenter également. On ne peut pas exclure l'éventualité que Léotard revienne sur ce qu'il avait annoncé et décide de se présenter. Il est à peu près certain, tout le monde est d'accord là-dessus, que messieurs Balladur et Chirac vont se présenter. Ça fait déjà quand même 7 candidats. Il faut ajouter à ça les candidats de la gauche. Alors, monsieur Mauroy nous a expliqué ce matin que monsieur Rocard n'était plus le candidat virtuel de la gauche. Mais Rocard va sans doute se présenter quand même. J'espère que monsieur Mauroy va se présenter contre monsieur Rocard. Je pense que monsieur Lang va se présenter. Peut-être qu'on va appeler monsieur Delors à la rescousse pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Moi-même, si j'arrive à mettre un peu d'argent de côté, je me présenterai. Et puis voilà, on va bien s'amuser. Alors en plus, il y aura tous les clampins habituels, les Krivine, les Laguiller, les Wurtz, parce qu'il n'y a pas de Wurtz ou U, d'ailleurs je sais pas quel communiste va se présenter. Mais avec les communistes, c'est pas gênant, parce que qui que ce soit qui se présente, de toute façon, ils ont la même tête et le même discours. Et il y a une chose, je sais pas si vous avez vu récemment cette image, moi qui m'a frappé, au-delà de toute expression, à la télévision, cette image des élections en Hongrie, où on a vu voter le patron de l'ancien parti communiste hongrois, qui maintenant s'appelle Parti Socialiste, parce que comme en France, le Parti communiste et le Parti Socialiste, c'est la même chose. Simplement, ils utilisent le mot socialiste pour cacher le mot communiste quand c'est devenu vraiment trop sale. Et là, donc, le patron communiste s'est présenté. Et on a vu arriver ce type, ce malheureux bonhomme, qui venait d'avoir un accident de la circulation, et qui ne se déplaçait qu'avec un appareillage métallique incroyable, une espèce d'échafaudage métallique qui lui enserrait tout le haut du corps, la nuque et la tête, et on avait l'impression d'avoir, comment dire, Mark Sator, l'exterminateur Coco. C'était effrayant de voir cette image d'une espèce de machine métallique qui avançait, qui mettait son bulletin dans l'urne et qui saluait la caméra. Et quand on sait que c'était le représentant communiste, on avait une très très belle image de ce que c'est. Donc les communistes vont se présenter aux élections. Enfin, avec un peu de chance, on en aura 20 ou 25. Et il n'est même pas absolument impossible que M. Pasqua se présente. Parce que M. Pasqua, il a fait un calcul que tout le monde peut faire, que je viens de faire en quelque sorte. C'est que, en moyenne, les candidats devraient faire le premier tour avec eux. Celui qui aura 15% sera certain pratiquement d'être au deuxième tour. Et il se dit, pourquoi pas moi? Lui, il est à la fois le candidat qui est le soutien d'une certaine droite, qui croit encore de toute bonne foi que M. Pasqua est un dur. Et en plus, il réalise l'exploit d'avoir le soutien de M. Gobert et de sa coterie, ce qui est admirable. Il a le soutien de Globe, ce qui n'est pas rien. Il aura le soutien de Libération, qui a beaucoup d'estime pour lui. Il aura probablement, d'une façon un peu cachée et déguisée, le soutien de M. Mitterrand. Et puis, il espère rafler les voix du Front National, comme d'habitude. Il n'arrive jamais, mais il continue à espérer. Et cette fois-ci, il espère en plus rafler les suffrages de M. Villiers. Donc, il n'est pas absolument exclu que la tentation soit trop forte, et que le candidat, alors lui, comme populiste, on peut pas faire mieux. Pensez, son père était policier du Front Populaire, et son père défilait dans les rues de, je crois que c'est Grasse, où il était policier, sous le Front Populaire, avec un brassard rouge pour montrer son adhésion aux idées du temps. Alors, ça, c'est vraiment un candidat populaire, hein, on peut pas faire mieux. Fils d'un petit flic communo-socialiste. Donc il n'est pas exclu qu'il se présente et qu'il s'appuie sur cette ambition, enfin plus exactement sur ce calcul, pour assouvir ses ambitions. En tout cas, je crois qu'on aura pas mal l'occasion de s'amuser, et que, toutes choses égales, étant donné que nous ne nous battons pas, nous, pour des hommes, le combat nationaliste ne consiste pas à faire comme font les socialistes, à essayer de créer des courants pour porter à la gamelle M. Rocard ou M. Mauroy ou M. Tartempion, M. Tartelune. On s'en fout de ça. Nous, on se bat pour sauver des principes. On se bat pour que la loi sur l'avortement soit supprimée. On se bat pour que les frontières soient restaurées. On se bat pour que la fiscalité soit modifiée. On se bat pour que l'éducation nationale soit remise en état de fonctionner et arrachée aux communistes et aux marxistes. On se bat pour que l'honneur soit rendu à notre armée. On se bat pour que l'Église retrouve sa place dans notre société. On se bat pour tout un tas de valeurs. Que ces valeurs soient défendues, appliquées, restaurées par X ou Y, ça a finalement très très peu d'importance. Ce qui est indiscutable, c'est que il y a un homme à qui on doit une gratitude immense, parce que sans lui, ces valeurs seraient mortes, enterrées et putréfiées sous la terre, c'est Jean-Marie Le Pen. Maintenant, si il faut, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, avoir d'autres gens qui mèneront le bon combat, moi, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. De toute façon, je vous signale qu'en ce qui me concerne, l'objectif final n'est pas d'installer un président de la République, mais de remettre le roi sur le trône de France. Donc, comme ça, ça se passera pas par le fonctionnement des urnes, ça a assez peu d'importance. Voilà, je crois, les conclusions qu'on peut tirer de ce scrutin. On va écouter un tout petit bout de musique pour que je prenne connaissance des très nombreux messages, parce que je suis tout seul. Victoria continue à être mobilisée pour la correction des œuvres de François Brignot, qui prépare un nouvel ouvrage. Et Françoise est mobilisée par le répondage téléphonique, puisque nous avons assez peu de bénévoles aujourd'hui. Par conséquent, je suis obligé de prendre connaissance des messages moi-même. Alors, on va écouter un peu de musique, et on va, avec cette musique, écoutez bien, parce qu'après, on fera un concours. Alors, une question qui est très très importante, à laquelle je veux répondre tout de suite, parce qu'elle me paraît quand même absolument capitale, et elle est tellement bien formulée que je ne peux pas résister. C'est une auditrice qui demande de quelle race est Caramel. À défaut de s'imaginer Beckett, on pourrait s'imaginer son chien. Alors, Caramel est un chien, j'ai le regret de le dire, devant une compagnie aussi choisie que celle qui est rassemblée autour de ce... de ses micros, Caramel est un chien métis. Il est non pas catholique par sa mère et musulman par son père, comme disait Mouloudji, il est probablement boxeur par son père ou sa mère d'ailleurs, et comment appelle-t-on l'autre chien, c'est celui de Giscard là, et de Mitterrand, ils ont tous Labrador. Voilà, et Labrador par l'autre partie. Mais il est très content d'être comme ça, il s'en porte très bien. Voilà, donc si vous arrivez à imaginer un boxeur labrador, vous avez compris ce qu'est Caramel. Alors maintenant, le concours. Qu'est-ce que nous venons d'entendre? Vous avez entendu, c'était une très jolie musique. Et le concours, qui est destiné à des mélomanes, consiste à dire qui est l'auteur de cette musique. Et pour les personnes qui répondront, qui donneront la bonne réponse, elles gagneront, ce qui est formidable, un abonnement de 3 mois au Libre Journal. Vous savez que le Libre Journal de la France courtoise, qui est le journal que j'ai créé, qui est un décadaire, et dont l'adresse est 139 boulevard de Magenta, 75 Paris 10e, je le dis parce que apparemment c'est une adresse qui n'arrive pas à s'imprimer dans les mémoires. Donc 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris, et c'est un journal tout à fait remarquable, dans lequel vous pourrez trouver, dans le prochain numéro qui sort demain, après-demain, les explications plus détaillées que je viens de donner sur les élections. Et donc, vous gagnerez 3 mois d'abonnement au Libre Journal de la France courtoise si vous nous téléphonez pour nous dire l'auteur de cette musique ravissante est monsieur... Alors, je ne le dis pas, parce qu'autrement, il faut dire que le concours deviendra un peu facile. Voilà. Autour de moi, Jean-Baptiste Biaggi. Alors, je ne veux pas demander à Bat, comme on dit, de nous raconter sa vie, parce que on serait encore là, probablement, dans quelques années, puisque pour raconter, il faut presque autant de temps que pour faire. On peut dire que Jean-Baptiste Biaggi est à la fois un très grand avocat et un très grand militant nationaliste. Il a été également... je le signale pour la police de la pensée, mais elle doit le savoir, un très grand résistant. Vous voyez que je fréquente aussi des résistants. Et c'est un résistant, comment dirais-je, endémique. Enfin, c'est une maladie chez toi d'être résistant.
Je n'ai jamais été exagérément gouvernemental. Ouais. Mais en ce qui concerne la résistance, j'ai résisté parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Quand on était nationaliste, j'ai résisté à l'occupation de l'armée allemande et non pas au nazisme. Car la résistance au nazisme, c'est un pieux mensonge.
C'est sûr que c'était en Allemagne que ça se passait, la résistance au nazisme.
Exactement.
En France, c'était la résistance à l'occupation allemande.
À l'occupation par l'armée allemande. Alors, je me réjouis de la réconciliation franco-allemande, j'observe seulement que ceux qui veulent le plus la réconciliation franco-allemande s'opposent le plus à la réconciliation entre Français. Je ne verrai aucun inconvénient pour ma part à ce que il y ait une journée de la réconciliation franco-allemande, mais faire venir un contingent allemand le jour de la fête nationale, je trouve ça tout à fait déplacé. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs.
Moi, ce que je trouve, sinon déplacé, du moins très, très étrange, puisque tu évoques, effectivement, ces personnes qui sont pour la réconciliation franco-allemande et contre la réconciliation franco-française, c'est qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir regarder des Allemands défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet sur le petit écran de télévision qu'il a dans sa cellule. Et ça va quand même lui faire très drôle de savoir que lui est en tôle, 50 ans après les faits, alors que ceux au service duquel on l'accuse d'avoir mis de s'être mis il y a 50 ans, défile sur les Champs-Élysées.
Oui, hein, c'est curieux.
Voilà. Alors, un autre invité ce soir, c'est Jean-Michel... Excuse-moi. Non, parce que j'ai invité tout à l'heure Rudan, qui doit venir.
Et alors, le prénom.
Voilà. Et alors, depuis tout à l'heure, chaque fois que j'écris Rudan, je veux écrire Rudan, j'écris Dubois, et chaque fois que je veux écrire Dubois, j'écris Rudan. Alors, Jean-Michel Dubois, qu'on connaît, qui est déjà venu à ce micro, et qui a pris, si j'ai bien compris, la succession d'André Dufraisse à la tête d'Entreprises Modernes et Libertés.
C'est pas tout à fait ça. Je suis responsable et président d'Entreprises Modernes et Libertés depuis 87. Et notre regretté ami Dufraisse était le secrétaire général d'Entreprises Modernes et Libertés.
Alors, on va parler d'Entreprises Modernes et Libertés, mais et puis le troisième invité que je n'ai pas présenté, mais c'est je ne l'ai pas présenté, je dois dire, par réserve, parce que en général, j'essaye de ne pas mêler notre Saint-Père l'Église à mes petites affaires politiques. Et c'est Monsieur l'abbé de Tannouarn, qui pour autant ne doit pas être gêné plus que ça d'être mêlé à des affaires politiques, mais enfin, c'est pas le sujet de ce soir, et qui vient de publier un numéro spécial de son magazine, de sa revue plus exactement, Certitude, consacré à Monseigneur du Cobourget, dont nous avons célébré cette semaine le 10e anniversaire du rappel au ciel. Ça s'est passé d'une part par une messe à Saint-Eugène et d'autre part par une messe suivie d'un déjeuner amical, très amical d'ailleurs, à Saint-Nicolas, le déjeuner ayant lieu à la mutualité.
Il faut souligner qu'à Saint-Nicolas, il y a eu tout le week-end des réjouissances et des festivités, puisque le samedi, il y avait un rallye pédestre, le samedi soir, il y avait le Minotaure de Marcel Aimé, et je crois que la gaieté de Marcel Aimé seyait bien à Monseigneur du Cobourget. Et donc le dimanche, il y a eu ce grand déjeuner animé, Serge, par vous.
Oui, c'était vraiment un moment de privilégié, enfin, un moment chaleur et d'affection. C'était un grand moment. Moi, j'ai été tout à fait content d'être là. Il y avait beaucoup de monde, il y avait 500 personnes, parmi lesquelles plusieurs hautes personnalités de la famille. Il manquait que Brignot, qui s'était arrangé pour attraper une laryngite le jour où on l'attendait pour faire un discours. Mais ça ne l'a pas empêché d'exprimer très, très précisément ce qu'il pensait par lettre. Et on a eu... Alors, je vais essayer de ne pas me lancer dans une énumération, parce que je vais certainement en oublier. Mais enfin, il y avait André Figueras, il y avait M. Claude Rousseau, il y avait Fromentou d'Action Française, il y a eu Sanders de Présent, il y a eu Colombani, Philippe Colombani, il y a eu Pierre Sidos. Qui y a-t-il eu encore? Ça y est, j'en ai oublié, donc je vais te fâcher avec eux, c'est certain.
Il y avait d'ailleurs des catholiques pratiquants, il y avait aussi les chrétiens du narthex.
Oui, oui, oui.
Et je crois que c'est une des spécialités de Saint-Nicolas du Chardonnay, depuis sa refondation, si on peut dire, par Monseigneur du Cobourget, que d'accueillir ces chrétiens du narthex, ou ces catholiques du seuil.
Vous savez, quand on a vu Lugan conduire 2 kilomètres en avant le pèlerinage de Chartres, le professeur Lugan, on peut dire qu'effectivement, dans la série du ratisser large, la tradition ne peut pas faire mieux.
Je crois qu'on ratisse les cœurs et que...
Oui, c'est ça, exactement.
À ce niveau-là, il n'y a pas de frontières.
Exactement. Alors, Monsieur l'abbé, on va parler de Monseigneur du Cobourget dans quelques minutes, mais avant, je voudrais quand même revenir sur la politique, puisque c'est au fond ce que plébiscite nos auditeurs, c'est le sujet dont ils nous demandent de parler. Et je veux dire que je suis très content d'avoir ici Jean-Michel Dubois et Jean-Baptiste Biaggi pour me donner leur opinion, qui n'est pas forcément la même que la mienne. Alors, Jean-Baptiste Biaggi, je disais quant à moi que je me réjouissais de ces résultats, car au fond, une opération, l'opération Villiers, qui avait été concoctée à l'évidence pour détruire le Front National, ne l'a pas fait bouger d'un pouce, mais en revanche a fait sortir de terre de nouveaux nationalistes français qui jusque-là n'avaient pas osé se manifester.
Qu'est-ce que tu penses de cette analyse?
Je suis tout à fait de cet avis. Il est évident que Villiers nous a pris un certain nombre de voix, peut-être même que Tapie a pris un certain nombre de voix.
Vous, celle-là, je ne le regrette pas, alors. Très franchement, je ne le regrette pas.
Je crois que...
C'est-à-dire qu'un Français...
C'est à Marseille.
Oui, un Français qui, en 1994, est capable de mettre dans une urne... Pourtant, j'ai aucun respect pour la démocratie. Vraiment, c'est un système que j'exècre. Mais enfin, c'est pas parce qu'on exècre les gens qu'on doit les traiter avec un tel mépris. Et ou les gens, ou les choses, ou les institutions. Et vraiment, un Français qui prend un bulletin avec Tapie dessus et qui le met dans une urne, c'est, à mon avis, quelqu'un qui, je dirais, pratiquement s'exclut de la communauté nationale, parce que c'est tellement répugnant, ce personnage est quelque chose de tellement abject, que voter pour lui, même pour détruire le système, c'est trop.
Oui, mais je suis d'un avis un peu mitigé là-dessus. Je crois que l'émergence de la liste Tapie est principalement due à ce que le personnage Tapie a été médiatisé, mais je crois que l'aventure Tapie ne se terminera pas à la mairie de Marseille, comme beaucoup le croient. Je crois plutôt que ça se terminera à Beaumetz.
Jean-Michel Dubois.
Oui, de mon côté également, je pense que nous ne pouvons que nous réjouir du résultat de dimanche, dans la mesure où le Front National a fait un excellent score, qu'on peut considérer que c'est la victoire de nos idées, des idées de Jean-Marie Le Pen, des idées du Front National. Ça, c'est capital, ce qui prouve que demain, le nationalisme pourra, en France, reprendre la place qui aurait dû déjà être la sienne depuis un certain temps. Et cela était également une très bonne nouvelle. Pour parler de Tapie, je ne regrette pas non plus, moi, les voix qui seraient parties sur cet individu qui, rappelons-le, traitait le Front National et les électeurs de Front National il y a quelques mois, quelques années, de salauds. Donc à ce niveau-là, eh bien, si certains sont des majocistes ou des personnes qui ne veulent plus se reconnaître en tant que Français, mais en tant que salauds, je pense qu'effectivement, là, c'est un autre problème, une autre prise de considération. Par contre, de l'autre côté, il y avait la liste un peu plus à droite et un peu plus bon chic, bon genre, la liste de Devilliers. C'est un premier pas pour certains. Moi-même, je suis un ancien RPR. Je suis arrivé grâce à Jean-Marie Le Pen au Front National en 1986. Il est bien évident que certains n'ont pas encore fait le pas. Et peut-être qu'en allant dans le sens du nationalisme et donc dans le sens de nos idées, des idées de Jean-Marie Le Pen et du Front National, c'est un premier pas et que demain, notamment pour les élections présidentielles, ils feront là le grand pas qui sera pratiquement leur devoir de voter pour Jean-Marie Le Pen et cela est une bonne chose. Il y a une bonne réserve de voix pour Jean-Marie Le Pen et je pense que nous ne pouvons que nous en féliciter.
Ce qu'on voit en tout cas, c'est que tout à l'heure, Maître Biaggi disait que Villiers, enfin que la liste de l'autre Europe avait pris des points au Front National. Bon, il semblerait que ça soit très limité dans cet effet, parce que on constate quand on étudie la carte des résultats, ce que j'ai fait un petit peu pour le Libre Journal de la France Courtoise, quand on étudie la carte, on s'aperçoit que Philippe Devilliers a fait un score exceptionnel dans des endroits où il y a une bonne implantation, je dirais, conformiste et traditionnaliste. C'est-à-dire des régions, l'Ouest parisien par exemple, ou des régions de province qui sont des régions qui restent encore des régions tranquilles et prospères. Et dans ces régions-là, je pense au Pays de Loire, le Front National n'a jamais pu marquer de points parce que n'a jamais pu marquer beaucoup de points pour des raisons sociologiques en fait. Et donc là, Devilliers a permis au sentiment national de s'exprimer dans des régions où, pour des raisons sociologiques, il ne s'exprimait pas à travers le Front National. En revanche, dans toutes les régions où le Front National est la manifestation d'un phénomène sociologique, c'est-à-dire d'un phénomène à la fois de ras-le-bol de la corruption politique, de ras-le-bol de l'insécurité, de ras-le-bol de l'immigration clandestine ou pas. Eh bien, dans ces régions-là, Villiers n'a absolument pas entamé nos scores. C'est très frappant à Paris quand on voit les résultats des quartiers dits chics et des quartiers dits populaires, où on voit très très bien que les chiffres sont inversés. C'est-à-dire que dans les quartiers chics, 7e, 16e, etc., le Front National fait un score modeste, Villiers fait un score très bon. Dans les quartiers populaires, 18e, 19e, 20e, Villiers fait un score modeste et Le Pen fait un très bon score. Donc on voit bien que c'est une nouvelle clientèle. Et quand on observe un peu plus loin, on s'aperçoit que cette clientèle, c'est une clientèle qui, jusqu'à présent, se portait plutôt sur les candidats officiels de la majorité, et c'est une clientèle RPR, UDF, etc.
Jean-Baptiste. À cet égard, il est très important de dire que nous n'avons pas à regretter qu'il y ait un certain nombre de voix qui se soient portées sur M. de Villiers. Jean-Marie Le Pen a très justement dit que de Villiers avait été
représentant de Villiers de Le Pen. Je crois que c'est vrai. Et c'est tellement vrai que Tapie lui-même, ce n'est pas la première fois que le vice rend hommage à la vertu, Tapie lui-même a dit que ce qu'il combattait maintenant, ce n'était plus Jean-Marie Le Pen, mais les idées de Jean-Marie Le Pen et du Front National qui étaient infiltrées partout. Et alors, l'éclatement de la droite molle, l'éclatement de l'establishment, n'en déplaise à M. Toubon, j'emploie le mot de l'establishment parce que ça veut dire quelque chose de très précis, l'éclatement de l'establishment va nous amener tôt ou tard à une situation à l'italienne. Et je crois que tôt ou tard, toutes les voix nationalistes se rassembleront pour élire un président de la République nationaliste. Et je suis un nationaliste de toujours et j'observe que tous les peuples sont devenus nationalistes. Il n'y a que les Français qui n'ont pas le droit d'être nationalistes. Monsieur Bernard-Henri Lévy préfère les nationalistes bosniaques. Moi, je préfère les nationalistes français, qu'on veuille bien m'excuser.
On cherche midi à sa porte, pas à la porte du voisin. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour les nationalistes bosniaques, mais effectivement, je préfère aussi les nationalistes français. Alors, il y a énormément d'appels. C'est vrai, je ne raconte pas d'histoire. Je les prends. J'ai essayé de faire un classement, mais vous me connaissez. Je ne suis pas très ordonné, donc je les prends un peu dans l'ordre où ça vient. Il paraît qu'il y a eu... Alors, une auditrice dit... on dit qu'il y a eu des bagarres le 9 juin avec le scalp lors du dernier meeting de Jean-Marie Le Pen à l'espace Carpentier. Alors c'est vrai qu'il y a eu des frottages d'oreilles, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que sous réserve d'inventaire, 5 des scalpeux qui ont été interpellés à ce moment-là par le service d'ordre du Front National ont été trouvés porteurs de cartes de policiers. Et on dit qu'ils étaient en service commandé. Donc, ça mériterait une enquête, et ça a été écrit par présent. Moi, j'en ai eu la confirmation non officielle, mais ça mérite quand même d'être approfondi. Et voilà, une des choses, si on avait des députés réellement sérieux, je regardais tout à l'heure, avant de venir, à la télévision, les questions au gouvernement. Alors, naturellement, tous ces gens-là viennent se montrer, c'est le seul jour où ils se montrent à la télévision, parce qu'ils savent qu'on les regarde, et c'est à pleurer, comme l'a fait remarquer maintes fois Jean Ferré. Ils sont incapables, ces gens qui sont des députés, sont incapables de dire 4 mots sans annoncer ce qu'ils lisent sur un bout de papier. Et en plus, il parle de sujets dont tout le monde se contrefout. Il y avait un type qui était là, probablement un brave homme, qui s'appelle M. Boucher, et qui est député UDF. Et il était en train d'expliquer que, est-ce que c'était pas plus dangereux, finalement, de faire de la répression contre les excès de vitesse, que de laisser faire. En gros, c'était ça qu'il disait. Bon, vous entendez un homme responsable, c'est un responsable, un député, qui vous dit que la répression des excès de vitesse est plus dangereuse que de laisser faire. on a envie de s'accrocher à la suspension pour se taper le derrière. C'est ahurissant d'entendre des choses comme ça. Et elle n'a pas la seule qui a posé la question de ce scandale. Oui ou non, des policiers en service commandé ont-ils participé, ont-ils été intégrés au gang du scalp? Ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qui devrait interpeller M. Passepoix, l'homme recommandable.
Voilà. Celui qui voulait terroriser les
terroristes. Le terroriseur des terroristes. Alors, beaucoup d'interventions sur Villiers, les auditeurs disent, mais Villiers n'a jamais caché qu'il resterait à l'UDF, qu'il ne s'alliera jamais avec Le Pen. Il a dit sur Radio Courtoisie, moi je ne l'ai pas entendu, que Le Pen, que le Front National était le parti de la haine et l'exclusion. Mais, écoutez, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas, le problème n'est pas de savoir si M. Villiers va s'allier avec M. Le Pen, ou pas, ou s'il considère que le Front National est le parti de la haine ou de l'exclusion, ou pas. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le phénomène important de ces élections, c'est qu'on a découvert que dans ce pays où l'idée nationaliste, où les valeurs nationales sont écrabouillées de mépris et de haine depuis 50 ans, il y a encore un Français sur quatre qui ose dire « Moi, je suis pour la France française ». C'est formidable. C'est formidable. Alors qu'après, Villiers soit prêt à s'allier avec Le Pen, n'a aucune espèce d'importance. C'est les électeurs qui décideront. Et puisque, apparemment, mes interlocuteurs sont démocrates, ils doivent être contents de savoir que les électeurs décident. Moi, personnellement, ça m'intéresse bien, mais...
J'aime l'exclusion. Pour le moment, je la vois surtout se lever contre Le Pen.
Mais attends, Jean-Baptiste, il est en train de se passer une chose. On m'en fait assez le reproche, et je parle souvent de Globe. Je peux vous dire qu'il est en train de se mettre en place, contre M. de Villiers, une campagne qui sera exactement comparable dans ses méthodes, dans ses objectifs, à la campagne montée contre Le Pen. Et Villiers, il va bouffer son bol de crapaud tous les matins, comme Le Pen l'a fait, et il va comprendre ce que c'est. Déjà, la semaine dernière, le titre de Globe, c'était « Plus dangereux que Le Pen ». Aujourd'hui, madame, dans l'Express, madame Veil dit, monsieur Villiers, qui est dans le même parti qu'elle, l'UDF, monsieur Villiers est un maurassien néo-pétainiste, ce qui, dans la bouche de cette grosse dame, est une injure. Globe revient à la charge en disant, Villiers, c'est le néo-pétainisme, l'ordre moral, et je ne sais pas encore. Donc, ils se préparent ça. Et je peux vous dire qu'ils sont en train de faire des dossiers sur M. Villiers, sur son entourage, sur sa famille, sur ses amis, sur son financement. Ils sont la même chose exactement. Déjà, dans je ne sais plus quelle torche machin, il y a un petit papier qui explique qu'en 1986, un des collaborateurs de M. Villiers, qui venait d'être renvoyé, s'est suicidé dans son bureau. Alors on va lui faire porter. Vous pensez bien qu'il vire un collaborateur parce qu'il ne marche plus avec lui. L'autre, qui est fragile, se suicide. C'est un assassin, Villiers. Vous voyez? C'est comme ça que...
Et on ne dira pas ça de M. de Grosso.
Ah, non, c'est du Mitterrand. Il n'y a pas de danger qu'on dise ça. Donc, voilà, il va comprendre, il va voir ce que c'est que la haine et l'exclusion. Et il va comprendre par expérience, très vite, que la haine et l'exclusion, elle n'est pas du tout du côté du Front National, elle est du côté des gens qui, jusqu'à présent, l'avaient couvert de pétales de rose et avaient tiré devant ses pieds des tapis rouges parce qu'ils pensaient qu'il était l'homme qui allait foutre en l'air le Front National. Or, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Il a saboté l'opération Obodis, involontairement, je pense, et il a d'autre part rendu manifeste que le peuple de France est encore attaché aux valeurs principales de notre civilisation. Ben, c'est formidable, moi. Qu'est-ce que...
D'ailleurs, tout ce qu'on dit de Villiers, tout ce que dira Glome, ils l'ont dit précédemment de Gaulle.
Mais de Gaulle, de Le Pen, enfin pas dans Globe parce que ça n'existait pas, mais dans la presse communiste et la presse de gauche, et la presse communautaire, c'est la même chose.
Et oui.
Alors, ils disent d'ailleurs qu'il y a un papier très étrange, dans Globe toujours, qui explique que Villiers est à la fois paléo-gaulliste et néo-pétainiste.
Ah.
Alors, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Un auditeur, alors beaucoup d'interventions sur les sondages aussi, qui là ont fait la preuve, je le regrette de le dire, parce que je sais que sur cette antenne, mais pas le mercredi, les sondages sont toujours vigoureusement défendus et présentés comme des choses scientifiques, ben là, je pense qu'on a eu la preuve définitive du contraire. Les sondages étaient absolument faux. Alors le seul sondage qui était vrai, c'était celui qui donnait 10,5 à 11 à Le Pen, mais les sondages donnaient 7% à Villiers, donnaient 6% à Tapie, donnaient 12% à Schwarzenegger, le docteur Mortibus, qui a fait 1,5% des voix. Vous savez, le monsieur qui a traité Le Pen, qui a traité Tapie de ce que Tapie traitait les électeurs de Le Pen. Je ne sais pas si tu as assisté à cette scène extraordinaire.
C'était évidemment une scène extraordinaire.
Et moi, j'ai fait un papier dans le Libre Journal qui va sortir pour leur dire merci. Merci à M. Schwarzenberg et merci à M. Tapie. Parce que c'est quand même très très rare que les second couteau du grand guignol politique se livre comme ça, en direct, arrache le masque comme ça et montre ce qu'est vraiment... les espèces de champignons qui poussent sur le fumier du suffrage universel. Là, on a vu la tronche de ces mecs, la haine, l'injure, la bave aux lèvres et le mépris de l'autre côté. Schwarzenberg disant à Tapie « Espèce de salaud !» Parce que Tapie venait de dire « Mais avec mon fric, j'ai payé ta campagne !» Et on sentait, c'était vraiment l'impression de...
Avec le fric de Tapie, la campagne de Schwarzenberg a été effectivement payée. Mais peut-être que si Tapie... est accusé d'escroquerie ou de vol, Monsieur Schwarzenberg sera peut-être inculpé de roquel.
Aucune possibilité, c'est exclu. Monsieur Schwarzenberg est forcément honnête. Alors, pour des raisons qui sont à la fois professionnelles et autres, c'est forcément quelqu'un d'honnête. Donc, c'est exclu qu'il soit inculpé, d'autant que plus personne n'est inculpé maintenant, mon cher.
Ah oui, on est mis en examen.
Voilà. Notre ami Pierre... me dit, on n'aurait pas dû attendre le 14 juillet pour faire défiler les Allemands. Il n'y avait qu'à les inviter à la fête de la célébration du débarquement, parce que jusqu'à plus ample informé, ils y étaient.
Oui, eux y étaient.
Ouais. Tandis qu'il y en avait d'autres qui n'y étaient pas, et qu'on a invité quand même. Bien, alors, on va parler dans 2 minutes de l'entreprise moderne et liberté.
Mais ce congrès se situe dans le droit fil de notre combat général.
Alors, Jean-Baptiste, si tu veux bien, on en parle dans 2 minutes. On va d'abord écouter un admirable Bobino, d'une beauté émouvante.
Dimanche 26 juin, fête de la courtoisie. Au palais de la mutualité, des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres dimanche 26 juin de 10h à 19h. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est que de 150 francs pour la journée, buffet campagnard et vin de Radio Courtoisie compris. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque accompagné d'une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 26 juin de 10h à 19h, fête de la courtoisie au palais de la mutualité. Entrée 150 francs. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Apparemment, il n'y a toujours pas de réponse au jeu concours par lequel vous pouvez gagner. Si, il y a des réponses. Ah bon, je commençais à me réjouir, je me disais, on va faire des économies. Apparemment, donc il y a des réponses. Alors, il y a des réponses.
Il y a beaucoup de réponses.
Il y a beaucoup de réponses. Philippe, c'est malin d'avoir fait ça. Alors, on va être ruiné en abonnement gratuit. Bon, bah tant pis, qu'est-ce que vous voulez, on les enverra quand même. Deux appels, enfin, parmi beaucoup d'autres. Il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est un auditeur qui dit... vous ne parlez pas sérieusement de ces choses et il faut en parler sérieusement. Mais j'en parle très sérieusement, très pensé que ça mérite effectivement le plus grand sérieux de savoir qui seront les 74 candidats aux prochaines élections présidentielles. Et puis un autre auditeur qui répond un peu en écho à ça et qui dit « Le vote Tapie représente la République. Je souhaite que Tapie soit un jour président de la République. On saura alors vraiment ce qu'est la République. »
Et Stavisky
fait... Je suis tout à fait de cet avis. Stavisky avait raté son coup.
Oui, mais il a été suicidé.
Ah oui. Parce que tu crois que Tapie pourrait se suicider.
C'est pas exclu. Ça c'est arrivé à la Borgo-Vauvais.
C'est arrivé à d'autres. C'est arrivé à Bérégovois. On ne voit pas pourquoi ça n'arrive pas.
C'est arrivé à Grosse-Mouvement.
Et puis alors, il y a quand même une nouvelle triste. Je vous l'annonce, c'est pénible. Mais M. Rocard a démissionné de son poste de secrétaire du Parti Socialiste. Et il a annoncé qu'il renonçait à se présenter à la présidentielle. C'est ce que les radios annoncent à l'instant. C'est pénible.
Oh, très pénible.
E.T. va retourner.
Pauvre Rocard.
Il va falloir faire une messe.
Pauvre Rocard.
Alors, Jean-Michel, oui. En quelques mots, présente-nous Entreprise Moderne et Liberté. Quelle est sa structure? Quel est l'objectif de cette... organisation, association,
C'est une association, mais qui a pour but de regrouper un certain nombre de cercles, notamment le Cercle National des Entreprises, le Cercle National de l'Enseignement, Cercle National Santé, Cercle National Droit et Liberté, dont le président est ici présent, Maître Biaggi, Cercle National Banque, Cercle National Transport et Cercle National de la Fonction Publique. À travers ces cercles, nous essayons de réfléchir pour l'avenir du mouvement et de pouvoir donner un certain nombre d'idées intéressantes d'une part à notre président et d'autre part à tout le Front National. Nous essayons également, à travers ces cercles, de regrouper des gens qui ont les mêmes idées que le Front National, donc ceux qui sont adhérents, certes, du Front National, mais ceux qui ne le seraient pas non plus. Et de ce côté-là, nous les accueillons volontiers. Nous essayons de travailler le plus intelligemment possible, et cela permet à différentes personnes qui n'auraient pas osé encore venir au Front National de pouvoir tout de même commencer à travailler avec des cadres du Front National et de pouvoir, dans l'objectif d'arriver au pouvoir demain, et surtout que le président Jean-Marie Le Pen arrive à la tête du pays en 1995, avoir un support au niveau technique et au niveau idée suffisamment forte pour que demain nous puissions faire en sorte que sur tous les domaines, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'enseignement, nous puissions être à même de pouvoir donner les solutions que les Français attendent et surtout faire en sorte que demain il n'y ait plus ce chômage qui brise les foyers, qui brise les vies, ce que les gouvernements de la droite molle actuelle ne peut absolument pas résoudre, comme ceux des socialistes n'ont pu le faire non plus. Donc les cercles sont des cercles de réflexion, et nous essayons à travers cela de proposer donc nos idées au mouvement et au président.
Alors comment ça fonctionne? Parce qu'au fond c'est une assemblée de cercles, mais on peut se demander ce qu'au fond le Cercle National des Banques a à dire au Cercle National des Transports. Est-ce qu'il y a vraiment des échanges qui se font?
Alors, il y a d'une part les cercles qui sont indépendants. Donc, il y a le Cercle Banque qui, de son côté, essaye de traiter et de résoudre un ensemble de problèmes spécifiques à ce type de cercle. Et donc, toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur des banques ou qui ont à voir directement ou indirectement affaire avec le problème de banque et d'essayer de voir, entre autres, si je prends le cas de l'actualité, le problème du Crédit Lyonnais qui est tout de même assez grave, où là les Français vont avoir à rembourser, je crois, une somme minimale de 25 milliards de francs actuels. 25 milliards, oui, c'est-à-dire qu'en ancien franc, ça fait je ne sais même plus combien.
Il y a trop de
zéros à ce niveau-là. Et dont Tapie est un des escrocs qui a profité du système. Eh bien, le cercle banque, de son côté, essaye de réfléchir pour pouvoir donner les meilleures conditions pour que les entreprises, pour que les particuliers puissent profiter au maximum de l'argent dans les conditions les moins lourdes et donc que cela puisse permettre d'autre part à l'économie de pouvoir repartir. V'là un exemple. Il est bien évident qu'il n'y a pas de lien direct entre certains cercles tels que le cercle banque et le cercle droit et liberté de Maître Biagi. Mais par contre,
il y a une convergence.
Ah oui, non, mais naturellement, il y a énormément de convergence, mais a priori, on se dit, tiens, le cercle banque n'a rien à voir avec droit et liberté. Mais quand nous regardons bien, on s'aperçoit que dans certains domaines, c'est complémentaire. D'abord, il peut y avoir la création d'une banque. Donc, une banque qui dit banque dit automatiquement un problème de droit. Et là, il y a le cercle de Maître Biagi, donc, qui intervient. Mais en plus, en horizontal, on se réunit relativement souvent et dans quelques jours, c'est-à-dire le 25 juin, va avoir lieu le 4e congrès d'entreprises modernes et liberté et nous allons donc faire une journée complète. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, si on peut en parler maintenant. Donc il va y avoir une journée complète qui va débuter à 9h45. Avec l'accueil par le président de notre groupe au Conseil régional d'Île-de-France. Ensuite, je ferai l'ouverture de ce congrès. Et nous allons ensuite travailler en atelier. Nous en avons prévu 4. J'ai envie de dire, et je le dis, que toute personne intéressée par ces travaux, toute personne intéressée par le principe de vouloir travailler avec nous, eh bien qu'elle téléphone à ton émission, si tu le permets, afin qu'on puisse se retrouver avec un maximum de techniciens à l'occasion de ce congrès. Donc, il va y avoir 4 ateliers. L'atelier entreprise, avec comme thème la crise et l'Europe, animé d'une part par Pierre Descaves et moi-même. Il va y avoir l'atelier droit et liberté avec pour thème les lois liberticides et l'animateur en sera tout naturellement Maître Biagi. Au niveau du cercle santé, nous allons organiser l'atelier menaces sur la santé. En principe, je dis bien en principe parce que je crois qu'il a quelques petits problèmes. C'est notre ami Jacques Laffey, le docteur Jacques Laffey, oui, qui devrait présider cet atelier. Et ensuite, en ce qui concerne le dernier atelier, l'atelier transport, nous allons parler de concurrence publique et privée. Et notamment, il y aura les transports routiers, les transports taxis, il y aura également la RATP, etc. Nous allons également, j'oubliais un cinquième atelier qui est d'importance en plus, c'est celui de l'enseignement. Et nous parlerons, je pense que Olivier Pichon, qui est le président de ce cercle, parlera de la loi Bérou et notamment de la rentrée scolaire. Donc nous allons avoir une matinée bien remplie, qui devrait en principe, parce qu'il est évident que quand on travaille à ce niveau-là, on ne peut pas minuter exactement son programme, mais en principe, cela devrait se terminer vers 12h15, tel tout au moins est prévu en tant qu'organisation, et le délégué général Bruno Maigret devrait faire donc une intervention d'une demi-heure sur la situation économique en Europe. Ensuite, nous allons avoir, ce qui me paraît tout à fait normal, avoir un déjeuner qui devrait durer une bonne heure et nous reprendrons ensuite sur le thème du social et l'Europe que défendra notre ami Karl Lang. Ensuite, pour que tous les congressistes puissent profiter de tous les ateliers, nous demanderons à chacun des ateliers de proposer un rapporteur et ce rapporteur donc interviendra. Donc tous les rapporteurs, il y en a 5, interviendront entre 14h45 et 16h30.
Et Jean-Michel Lévet, tu envisages de faire ensuite une compilation des interventions?
Absolument, absolument. Comme nous le faisons à chaque fois, nous allons faire un document de quelques pages que nous transmettrons d'une part à tous les responsables de notre mouvement, mais également Toutes les propositions que nous serons amenés à faire, nous les proposerons à certaines personnalités extérieures, parce qu'il faut bien montrer et démontrer que le Front National est capable de faire des propositions, que le Front National est à même de pouvoir arriver demain à la barre de ce pays. Et je pense que ce que nous faisons fait partie de la pierre qui permettra à cette maison France de pouvoir être construite dans de bonnes conditions.
Tout
et
à fait.
Si tu le permets, donc oui. Pour cette journée, il y aura ensuite la conclusion par Jean-Marie Le Pen de 16h30 à 18h. Donc je pense que là, il y aura une journée bien remplie, surtout que le soir, je déborde un peu, mais je vais parler de mon ami Martine Huideux. Le soir, il y a un dîner dansant où nous avons demandé à nos congressistes, qui sont à 80% des hommes, de bien vouloir, mais nous accueillons et nous accueillerons avec plaisir toutes les femmes qui voudront bien participer à ce congrès, et en espérant qu'elles soient même plus nombreuses que les hommes, à la limite. Mais le soir, nous nous retrouverons avec Martine Huideux pour le dîner dansant annuel du Cercle National des Femmes d'Europe. Et je pense que la conclusion de cette journée sera fort sympathique. Et c'est pour cela que je demande à toute personne qui serait intéressée par ce congrès de bien vouloir soit téléphoner à ton émission, soit de téléphoner à Daniel Deleuze, qui est la secrétaire générale maintenant de Entreprise Moderne et Liberté, au 44 70 05 72. Je fais ma publicité, tu m'en pardonneras, je l'espère. Non, je répète le numéro, 44 70 05 72.
Ça n'est pas inutile du tout, parce qu'un auditeur téléphone en disant, pour en revenir à Villiers, j'ai essayé de joindre les permanences de Philippe de Villiers après les résultats, et on me dit que c'était fini, il n'y avait plus de permanence.
Donc, lui, c'est fini, lui.
Bien sûr, surtout, alors, qu'est-ce que ça met en lumière, ça? Ça met en lumière le fait que si les nationaux veulent vraiment faire un travail efficace, un travail de terrain, s'ils ne veulent pas se contenter de participer à des meetings et de mettre un bulletin dans l'urne, et qu'ils espèrent faire ce travail par l'intermédiaire de Philippe de Villiers, c'est impossible, il n'y a rien. Il n'y a pas ce que les communistes appelaient des organisations de masse. Ça n'existe pas. Tandis que le Front National, qui existe depuis plus de 20 ans, a mis en place des organisations de masse. Alors, les organisations de masse, il ne faut pas croire que ça veut dire des millions d'ouvriers qui défilent sous le drapeau rouge. Ce qu'on appelle une organisation de masse, c'est une organisation qui est en contact avec ce que les communistes appelaient les masses, c'est-à-dire avec le peuple, avec les gens, et qui leur permet de se regrouper pour agir, pour proposer, pour inventer des idées. Et c'est exactement le rôle d'Entreprise et Liberté. Et d'ailleurs, je sais, par expérience personnelle et par contact personnel, qu'il y a à Entreprise et Liberté, je te fais peut-être une révélation, des gens de chez Villiers, des gens qui sont les acteurs de Villiers.
Et j'espère qu'on en aura de plus en plus.
Et à ce niveau-là, pas seulement de Villiers d'ailleurs, il y a aussi des gens du RPR.
Il y a des gens du RPR, parce que moi je viens, comme je l'ai souligné tout à l'heure, du RPR, et je connais un certain nombre de ex-RPR ou de RPR même qui sont encore là, qui participent à nos travaux. J'aimerais faire une petite parenthèse, les cercles, et cela démontre bien que à l'intérieur du Front National, nous avons tout de même des gens qui sont capables de faire un travail constructif, qui ne sont pas des diablotins, il y en a très peu, mais il y en a pratiquement pas chez nous, mais on nous diabolise. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Mais là, j'aimerais dire à tous ceux qui, pour la première fois, ont peut-être fait une démarche de voter pour de Villiers, qu'en venant participer aux travaux de nos cercles, que ce soit celui de Maître Viaggi, qui est avocat, donc c'est pas un diablotin, que ce soit celui des autres cercles, et notamment celui de l'entreprise, que je m'occupe d'une façon plus particulière. Je tiens à faire une petite parenthèse, je suis un élu, donc j'ai été élu par les 250 000 entreprises de la région Île-de-France, je suis un élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, je suis également un administrateur de la Fédération des PME de la région Île-de-France. Je pense qu'à ce niveau-là, cela démontre tout de même qu'on peut avoir à l'intérieur de notre mouvement des personnes capables de pouvoir discuter et de pouvoir apporter certaines solutions aux maux actuels. Et je pense que la faiblesse de nos gouvernants qui ont pris cette place, ce sont actuellement des professionnels de la politique qui ne pensent qu'à une chose, qu'à s'enrichir. Eh bien, je pense que nous, au Front National, nous avons cette capacité de pouvoir remettre de l'ordre, c'est-à-dire remettre le pays en marche et de faire en sorte que demain, nos enfants et nos petits-enfants puissent avoir un avenir qui leur permette de voir, d'être un peu plus plaisant que ce qu'il y a actuellement.
Ok. Donc, le congrès, c'est le 5, le 25.
Alors, je vais répéter juin, encore. C'est le samedi 25 juin au Conseil régional d'Île-de-France. Donc, il va y avoir la salle des séances plénières où là, nous allons faire notre grand-messe de l'après-midi. Et le matin, nous allons, dans les petites salles attenantes, avoir toutes les réunions, tous les ateliers qui nous permettront d'apporter ces propositions. Donc, c'est le 25 juin au Conseil régional d'Île-de-France, 57 rue de Babylone, 75 007 Paris.
Merci Jean-Michel, merci Jean-Baptiste. Un mot encore, oui.
Je voudrais dire que Jean-Michel a très bien défini entreprise moderne et liberté et le but qu'elle poursuit. En ce qui me concerne, je suis président du cercle que l'on appelle pour la commodité droit et liberté, mais dont le véritable nom est l'Association nationale pour le droit et les libertés. Et en particulier, j'ai volontiers accepté d'animer un atelier sur la loi liberticide parce que effectivement, dans cette 5e République que nous avons mise sur pied et que nous n'attendions pas à voir dériver de cette façon, les libertés sont menacées. Et je crois même que nous ne sommes plus tout à fait en état de droit. Alors, en particulier, nous voyons se monter le crime organisé, le blanchiment de l'argent sale, la corruption, et contre tout ça, parce que tout simplement nous voulons qu'on sache que aussi bien au Front National que dans notre milieu de juristes, on voudrait des solutions qui ne soient pas exactement l'absence de solution à laquelle nous assistons actuellement avec les gouvernements Balladur ou Bérégovois ou autres. Alors, je pense que si nous sommes ouverts à tous et même à ceux qui ne sont pas exactement de notre avis, car nous sommes des hommes d'ouverture, nous voulons simplement que l'on sache ce que nous sommes et non pas ce que l'on dit de nous.
Voilà. Jean-Michel, un dernier mot ?
Oui, un dernier mot, si tu le permets. Nous sommes en train de réfléchir actuellement, Entreprise moderne et liberté, sur la possibilité de créer, en plus des cercles, les cercles, c'est là où on réfléchit, on propose, mais sur la création d'un syndicat. Un syndicat qui nous permettrait de pouvoir nous faire connaître à l'intérieur de différentes institutions, telles les chambres de commerce, les chambres de métiers, les tribunaux de commerce, les chambres d'agriculture, etc., les prud'hommes. Et je pense qu'avec notre ami Bruno Gollnisch, qui est le président du Cercle national de la fonction publique, qui est fort intéressé également par cela, qui a déjà mis au sein de la région Rhône-Alpes une structure pour aller dans ce sens-là, je pense que cela pourrait nous permettre également d'être mieux compris, d'être mieux accueillis par les entreprises. Donc à partir du moment où on se fait mieux connaître et mieux admettre au sein des entreprises et avec l'intérieur par les cadres, je pense que là, cela ne pourra que servir notre mouvement national, pourra servir le Front National et le Président, et je crois que c'est une initiative que nous avons prise de principe à l'intérieur d'Entreprise moderne et liberté. Là maintenant, nous attendons la bénédiction du haut, si je puis dire, mais je pense que si nous l'avons, à partir du mois de septembre, nous allons commencer à aller dans le sens d'un syndicalisme socio-professionnel qui peut, à l'époque actuelle, donner des points supplémentaires pour qu'on se fasse mieux connaître et qu'on puisse démontrer que nous sommes d'abord des gens tout à fait normaux, d'une part, et qu'au niveau intelligence et proposition, nous sommes au minimum comme les autres, sinon meilleurs.
Mais on en parlera au moment où ça sera vraiment d'actualité, et ce sera la première fois que je ferai de la publicité pour un syndicat.
Le syndicalisme n'est pas absolument incompatible avec le nationalisme.
Et avec le combat, au contraire, c'est un combat comme un autre, et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur.
Okay, on verra ça. Un auditeur dit « L'article relatant le suicide sur le collaborateur de M. de Villiers n'est pas paru dans un torche-machin, comme vous le dites, mais dans Rivarol. » Oui, monsieur, c'est possible. Mais c'est évidemment pas de Rivarol que je parlais en disant torche-machin. J'ai trop d'amitié pour Cavigalic et pour Rivarol, pour employer ce genre de terme. Je parlais du journal dans lequel j'avais vu cette information, enfin plutôt cette note, et qui n'était pas Rivarol, qui est effectivement un autre journal, et un journal qui, lui, est un torche-machin. Alors, un auditeur dit « Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est bien que M. de Villiers prenne les idées de Le Pen, car il a dit lui-même qu'il rentrerait dans le rang. » Oui, mais, monsieur, le problème, c'est que M. de Villiers fait ce qu'il veut, mais il ne se balade pas avec ses électeurs comme avec une paire de fixes chaussettes. Lui, il fera ce qu'il voudra, et ses électeurs feront ce qu'ils voudront. Ce qui est indiscutable, je répète encore une fois, c'est que le travail le résultat de cette liste a été de permettre à des Français nationalistes de se déclarer ce qu'ils n'osaient pas faire auparavant. Et en tant que nationaliste, je suis très content de ça. Que ce soit M. de Villiers, M. Pasqua, M. Goldsmith, M. Charles de Gaulle, petit-fils authentifié réellement, qui soit responsable de ça, je m'en fous. Mais alors, à un point que vous pouvez même pas imaginer. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il y a 5 ans, il y avait 11% de suffrage nationaliste, et qu'aujourd'hui, il y a 23% de suffrage nationaliste. Voilà, donc on a doublé. C'est aussi simple que ça. Un auditeur pose une question qui me paraît fort judicieuse. Où en est l'enquête sur Carpentras? Est-ce que M. Pasqua serait aussi nul que M. Jox et aussi incapable d'obtenir des résultats de sa police? Allez savoir. Voilà. Et puis un auditeur remarque que je serais d'accord avec vous si les listes Le Pen et Villiers avaient fait respectivement 14 et 12%. À Chatou, Le Pen a fait 9,42 alors qu'en 89 il faisait 14. Par contre, Villiers a fait 16,56. Mais monsieur, c'est très exactement ce que j'ai dit. J'ai même dit que dans l'Ouest parisien, effectivement, Villiers avait fait une percée, et que dans ses quartiers chics, il a probablement, effectivement, pris quelques voix au Front National, où la bourgeoisie élégante nationaliste ne se résolvait à voter pour le Front que à son corps défendant, et là, il y a Villiers, ça a arrangé les choses. Mais dans les quartiers, mais ça, c'est valable à Chatou, peut-être à Versailles, et peut-être dans les Pays de Loire, mais il n'en reste pas moins que sur la totalité de l'électorat français, Villiers a pris très 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 peu de voix, de l'ordre de 3% au Front National, et que la quasi-totalité de son électorat, ce sont des gens qui viennent du RPR et de l'UDF. Voilà, on arrête sur ce sujet parce que M. l'abbé de Tannouarn commence à s'endormir. J'ai l'impression que la politique vous ennuie.
Oh, la politique ne m'ennuie pas, au contraire, elle me passionne, mais bon, l'actualité immédiate passe très vite, et moi je suis un homme de l'actualité de l'éternel, si vous voulez.
Quel âge aviez-vous quand Mgr Duc au Bourget a rendu Saint-Nicolas la tradition?
Alors, en 77, je suis pas très très bon en arithmétique, il faut que je compte.
J'avais 18 ans.
16 ans, à peu près.
Ah oui. Oui, effectivement.
16 ans, 17
et vous,
ans. Et
vous étiez dans le coup?
Non, j'étais pas dans le coup.
Parce qu'un auditeur nous dit, c'est pas Ducos qui a rendu l'Église de la Tradition, c'est Coache et les laïcs, et c'est les laïcs qui ont tenu. Moi, je veux bien, mais enfin, j'ai pas l'impression que les laïcs auraient pu tenir longtemps dans une église s'il n'y avait pas un prêtre pour célébrer la messe de temps en temps.
Pour ce qui est de l'abbé Coache, c'est évident que sa magnanimité a tout déclenché. Mais bon, autre chose était de déclencher l'affaire et autre chose de tenir au jour le jour contre l'offensive médiatique généralisée, contre l'évêque du lieu, contre tous finalement. Et celui qui a tenu seul contre tous,
et qui a maintenu au fil des années, jusqu'à sa mort inclusivement, c'est bien Monseigneur du Cobourget. Ça n'enlève absolument rien au rôle de l'abbé Coache.
Vous l'avez connu ou...
Moi, je ne l'ai connu que de loin. Non. J'étais trop jeune encore.
Françoise l'a connu.
Oui, j'ai bien connu, parce que mon fils lui servait la messe quand il la disait dans une toute petite chapelle rue de la Cossonnerie.
Rue de la Cossonnerie, oui, où il disait...
Parce qu'on a été de salle en salle.
Des messes pour minute, parce que personne ne voulait célébrer des messes pour minute, et c'était Monseigneur du Cobourget qui faisait ça, rue de la Cossonnerie d'ailleurs, je me souviens très bien.
J'avoue que moi, Monseigneur du Cobourget, je le connais évidemment beaucoup plus maintenant par ses livres, par ce qu'il a écrit, par ce que l'on a écrit de lui, et donc pour rédiger cette petite brochure dont vous parliez tout à l'heure, Serge, j'ai dû lire tout ça. Au début, je l'ai fait parce que c'était l'occasion. Bon, une grande manifestation, il faut couvrir, il faut faire quelque chose. Et plus je suis allé profondément dans le personnage, plus il m'a paru sympathique, attirant. Et plus je me suis dit, finalement, c'est ce genre de prêtre dont il faut aujourd'hui montrer l'image. C'est un prêtre qui a été profondément calomnié. On n'est pas combattant pour rien quand on est en première ligne. On s'en prend nécessairement plein la figure. C'était son cas.
Et puis lui, alors on lui a rien épargné. Hein. Ça, je dois dire que...
Et depuis toujours. Je suis très content d'avoir eu le témoignage de Raoul Girardet dans ce numéro, qui est donc un historien de première ligne lui aussi, et qui, tout athée qu'il soit aujourd'hui, nous dit « Dans les années 30, c'était mon aumônier de lycée, et il était déjà intégriste, il était déjà détesté par sa hiérarchie, et il était déjà aimé par tous ses élèves pour son ouverture d'esprit, pour sa facilité d'abord, pour tout ce qu'il savait dire, pour sa culture, pour son aisance. »
Et d'ailleurs, pardonnez-moi de vous couper, mais dans le numéro de Certitude, vous publiez un certain nombre de photos de Monseigneur du Cobourget, et ces photos sont incroyablement révélatrices, parce que nous l'avons connu, c'était déjà un vieillard, il était perclus de rhumatisme, il avait ce physique de comment dirais-je ?
Il ressemblait au curé d'Ars.
Du curé d'Ars, tout à fait, mais il était... il marchait à petits pas et il avait une lumière extraordinaire dans le regard, c'est ça aussi qui était un sourire d'une malice formidable. Mais quand on voit le visage du Cobourget à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, alors on découvre un tout autre personnage, on découvre un soldat. Il a un visage, des yeux qui vous percent d'une façon incroyable, et puis il a ce sourire qui a l'air d'avoir tout compris.
Et alors, il y a une de ces photos où il tire sa pipe et où je vois bien l'aumônier de lycée auquel avaient recours les uns et les autres. C'était le lycée Voltaire. Il avait fondé d'ailleurs une petite revue qui s'appelait le Voltaire catholique, qui était une manière de faire la nique un peu à tout le monde, aux uns et aux autres, si vous voyez ce que je veux dire. Et il a sur cette photo vraiment l'allure de... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est gourou. Ce n'est pas un terme tout à fait recommandable. Mais en tout cas, c'est un maître spirituel.
Oui, c'est un maître spirituel. C'est quelqu'un qu'on avait envie de suivre et qu'on avait envie d'entendre et qu'on avait envie de suivre, c'est certain. Qui d'autre avez-vous rencontré, parce que vous nous parliez de Raoul Girardet, qui avez-vous rencontré pour Certitude?
Eh bien, on a essayé d'avoir un panel suffisamment large, on n'a pas rencontré, si vous voulez, ceux dont il était évident qu'on devait les rencontrer, c'est-à-dire les paroissiens actuels, mais... j'ai essayé, par exemple, d'avoir un témoignage de prêtre et d'un de ses camarades de séminaire qui est Monseigneur Le Cordier, évêque émérite de Saint-Denis. Et Monseigneur Le Cordier a été ravi de nous dire tout le bien qu'il pense encore aujourd'hui de Monseigneur du Cobourget et même de son action. C'est donc quelque chose d'intéressant.
Alors, à propos d'action, je parlais tout à l'heure de... l'action dans la résistance de Jean-Baptiste Biagi,
Monseigneur de Coubourget a été aussi un résistant sérieux de la première heure, parce qu'il a eu d'ailleurs toutes les décorations généralement attachées à ça. Une fois qu'il a eu ses décorations, il a fait comme Biaggi, il a mis ça dans un tiroir et il s'en est pas servi pour faire le petit commerce.
Il y a toujours eu résistant et résistant, voilà. Parce que...
Mais tout ce qu'il a gagné à ça, c'est que quand on lui a quand il a été proposé pour l'épiscopat, pour devenir évêque, De Gaulle a opposé
le gouvernement provisoire a dit un non
catégorique,
définitif. Ouais. Oui. Ça, c'est... Parce qu'il y a toujours eu résistant et résistant. Et donc,
je suis persuadé que toute l'action de Mgr de Coubourget a été une action de résistance. En 1940, de 1940 à 1944, et aussi après la guerre.
Oui, c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que j'ai donné aussi un peu ironiquement à ce numéro le titre de Mgr de Coubourget, le franc-tireur de Dieu.
Oui, et d'ailleurs, c'était un franc-tireur qui avait parfois un langage de franc-tireur, et Elisabeth Fontaneau nous téléphone pour nous dire que quand il recevait des coups de téléphone anonymes d'injures, il laissait son correspondant développer sa litanie et puis terminer en disant « Merda mea descendat sur super vos et maneat semper ».
C'est très joli, ça lui ressemble admirablement, ça n'a rien de méchant et néanmoins, il faut pas le prendre.
D'autant qu'on n'a pas traduit et que les enfants comprendront.
Une serpillière, oui, tout à fait.
Alors, ce numéro de certitude contient également des poèmes, alors on n'a pas le temps de les lire malheureusement, des poèmes de Mgr de Coubourget qui sont
magnifiques. Je voudrais juste vous en lire un, je crois...
On a une minute, alors je vous
Je ne crois pas que Mgr de Coubourget soit un poète de la littérature. Il excelle dans la chanson. Et je voudrais vous lire celle-ci. « S'ils vont au ciel, je le redoute, vivre près d'eux serait mortel. Mon Dieu, vous n'êtes pas cruel. Écartez-moi donc de leur route, que loin de rieurs et contents, je demeure éternellement... car les gens sérieux sont embêtants.
Et ben vous voyez, on me demandait d'être sérieux tout à l'heure, ça m'aura empêché d'aller siéger dans les prairies éternelles aux côtés de Mgr de Coubourget, ça serait trop dommage. Merci, monsieur l'abbé. Je précise que vous serez là le 26.
Tout à fait.
Pour
Et je voudrais simplement dire que si certains auditeurs sont intéressés, cette brochure est disponible... au 5 rue de Navarre, 75005 Paris, au prix de 20 francs franco de port.
Et ils pourront se la procurer également le 26, puisque vous serez là pour la présenter.
Tout
le 26 à la Mutualité pour la journée du livre de Radio Courtoisie. Merci monsieur l'abbé, merci Jean-Michel Dubois, merci mon cher Jean-Baptiste Biaggi.
Très vite, quelques notes, quelques annonces. Samedi 18 juin 94 à 18h30, les amis de Guy Auger, les très nombreux amis de Guy Auger, je pense que Daniel en reparlera, se réuniront en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay pour assister à une messe qui sera dite par monsieur l'abbé Laurence, recteur magnifique et désormais canonique.
À quelle heure, pour préciser l'heure?
Alors, c'est à 18h30, Saint-Nicolas du Chardonnay. Messe pour monsieur Guy Auger. Les personnes qui souhaiteraient participer aux frais de célébration peuvent adresser leur envoi à l'association des amis de Guy Auger, 45 rue Rémy du Moncel. Je donne le téléphone 43 27 50 45 et la télécopie 40 47 04 09. Le lendemain dimanche, je vous rappelle que c'est la grande fête de Neuville sur Barangeon, la grande fête du CNC. Sixième grande fête champêtre et familiale avec messe traditionnelle par l'aumônier du CNC, cérémonie des couleurs, remise de décoration, spectacle, allocution de Roger Olindre, grand discours de Jean-Marie Le Pen et puis de nombreuses distractions, des restaurants, des stands, des sonneurs de Sologne, des meutes, une meute, un endroit où on pourra amuser les enfants et les laisser pour ne pas qu'ils se perdent dans la foule. Voilà. Alors, pour tout renseignement, 40 59 07 66. Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomé, le 28 juin à 18h, Monsieur Cerbelot-Salagnac donnera une conférence sur les Carmélites de Compiègne, le vrai martyr des Carmélites de Compiègne. Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomé, 28 juin à 18h, Monsieur Cerbelot-Savagnac. Et puis alors, comme il faut jamais négliger les bonnes choses, je voudrais vous rappeler, enfin vous dire une chose, c'est que à l'Alzaco, vous savez, c'est un restaurant dont je parle très souvent, il y a une nouveauté, il fait une chose qui est une pure merveille, alors régalons-nous, c'est un pot-au-feu tiède avec des crudités. Alors pour l'été, quand il fait chaud, je vous dis pas, c'est une merveille. Comme on n'est plus en carême ni en avant, on peut y aller carrément. L'Alzaco, c'est 11 rue Condorcet. Et puis il y a également un endroit où on mange fort bien et où on rencontre régulièrement la bande du chœur Montjoie-Saint-Denis qui chante. C'est la Mer Agitée, 21 rue Campagne Première. Et d'ailleurs, si vous voulez y aller le soir, enfin la nuit de la musique, là vous êtes sûr que vous n'entendrez pas d'incongruité. Je vous remercie de votre patience, de votre fidélité. Je remercie surtout Daniel de sa générosité. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Bien, bonsoir aux éditeurs de Radio Courtoisie. Pardon, bah, ça commence bien ce soir. Si je me marche comme ça la langue, c'est terrible. Comment ? Merci Pierre-Emmanuel. Enfin, merci d'être là en tout cas. J'espère que vous allez encore être très brillant ce soir, comme vous l'êtes à votre ordinaire. À votre ordinaire, bien sûr. Et puis, bien sûr, je salue les auditeurs. Je les remercie d'être présents pour cette petite heure et quart que nous allons passer ensemble, puisque là, bien sûr, on s'est encore fait grappiller 10 minutes, mais enfin, c'est l'usage dans cette maison, donc c'est pas très grave, tout ça se passe quand même dans la bonne humeur. Et puis, je salue, bien sûr, tous les invités de ce soir, ils sont très nombreux, ils vont aborder un nombre de thèmes absolument prodigieux, c'est encore un record ce soir, donc je salue dans l'ordre d'apparition, non pas... à l'image, on n'a pas encore d'image à Radio Courtoisie, encore qu'en imaginant, bon, peut-être que vaut mieux pas imaginer d'ailleurs, hein. Oui, vaut mieux entendre que les voix, hein. Oui, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien. Alors, je salue donc d'abord la présence de Maïté Vallès-Bled, qui est conservateur du musée des Beaux-Arts. Alors, conservateur du musée, hein, faut bien préciser les choses, conservateur du musée, c'est le chef. Conservateur au musée, c'est les adjoints. Bon, mais là, c'est le conservateur du musée qui nous vient de Chartres et qui va nous parler de l'exposition qui s'ouvre, dont le vernissage est pour le 30 juin, mais qui s'ouvrera officiellement au public le 1er juillet, sur le sacre d'Henri IV, qui, comme chacun sait, était sacré le 27 février 1594. Et nous y étions, enfin, pas en 1594, mais en 1994, en quoi... Bon. Je salue également la présence de Michel Burr, qui est historien, qui vient de nous régaler d'un livre absolument magnifique, une traduction de La Geste de Louis VI de Sugère, magnifiquement imprimé, enfin on va parler tout ça dans le détail. Je salue aussi la présence de Rénal Secher, et accompagné aujourd'hui, enfin Rénal Secher tout le monde le connaît, donc c'est plutôt lui qui devrait me présenter, parce que moi je suis inconnu, mais lui est connu comme le houblon. On dit le houblon, le loup blanc. Non, comme le loup blanc. Le houblon, c'est autre chose. Mais bon. Réna Secher, et qui est accompagné aujourd'hui d'un garçon tout à fait sympathique, qui est déjà passé à quelques reprises, sur Radio Courtoisie d'ailleurs, Guillaume Golfier. Vous avez une jolie coupe là, je trouve, Guillaume.
Ah oui, mais c'est...
Bon, n'insistons pas.
Merci.
Ils vont nous parler de la restauration d'une chapelle en Vendée militaire. Et puis, je salue également la présence de Jean-Michel Rudan, qui devait passer dans la première partie, qui va passer dans la deuxième, et comme il va passer en fin de deuxième, peut-être qu'il passera pas du tout ce soir. C'est une horreur. Et qui va venir nous parler d'un grand pèlerinage organisé par la confrérie Sainte-Clotilde et le centre Charlier, pour Sainte-Clotilde. Bah oui, Sainte-Clotilde, la marraine de la France, en quelque sorte, hein, l'épouse de Clovis. C'est grâce à Sainte-Clotilde que nous sommes français depuis 15 siècles. Peut-être pas encore pour autant, mais enfin, pour l'instant, on l'est encore. Aux dernières nouvelles, ce soir, au journal télévisé, on l'était encore. Donc,
on va essayer de rester.
Voilà. Donc, merci à Pierre-Emmanuel aussi qui va nous assister. Merci aux autres amis qui sont venus là pour prendre un petit peu de messages téléphoniques. Puis, comme vous savez, vous pouvez nous appeler au 46 51 00 85. Si vous avez des questions à nous poser, des remarques à nous faire, ben, on essaiera de répondre à toutes vos questions, y compris aux insultes. Ça anime généralement les émissions. Voilà, donc j'ai fait ma présentation. Là, on va pouvoir, pour saluer la présence de Maïté Vallès-Blède, nous mettre un peu dans l'ambiance, non pas dans l'ambiance du sacre d'Henri IV, parce que ça, c'est... pour faire un petit peu plus léger, mais dans l'ambiance de la fin de la Renaissance. Et on va écouter une chanson. Alors ça, c'est très drôle, c'est un disque américain. Mais c'est tout en américain. Ça s'appelle... c'est très drôle. Ça s'appelle « La Rock and Roll ». La rock and roll, la, pas the, la rock and roll, n'est-ce pas? Nous on dit, voilà, c'est très curieux, c'est formidable. Les Américains sont des grands amateurs de musique renaissance. Et il y a beaucoup de groupes instrumentistes ou vocaux américains qui se spécialisent dans cette période. Ils ont fait là une production très très belle. C'est donc de la musique popular music, pour eux c'est la rock and roll, bon, de la Renaissance. C'est le groupe, c'est le Baltimore Consort. Et c'est absolument ravissant, ça s'appelle « Ma bergère, ma lumière ». Alors c'est une chanson écrite par Jean Plançon, et ça date de 1587. Donc on peut dire qu'en 1587, on savait que Henri IV allait succéder à Henri III. Il est encore vivant Henri III, mais enfin on savait que c'est lui qui allait succéder, puisqu'il y a succédé 2 ans plus tard. Alors, effectivement, la période est un petit peu troublée en France. Il y a beaucoup de problèmes interconfessionnels, comme on dit aujourd'hui pudiquement dans les dépêches d'agence. Et là, c'est quelque chose de très léger. C'est une espèce de bergerie absolument délicieuse. Alors, on va l'écouter. C'est un peu pour nous mettre dans l'ambiance d'Henri IV, dont on va parler immédiatement après, donc, cette rock'n'roll.
J'aime la lumière, mais que ce chant d'autre, j'aime.
Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié autant que nos invités cette délicieuse chanson de la toute fin de la Renaissance, donc 2 ans avant l'avènement d'Henri IV à la couronne, à défaut de l'avènement au trône, puisqu'il faudra attendre 1594 pour qu'il soit sacré, et il le fut évidemment à Chartres, puisque la Ligue tenait Reims. Ce qui est toujours très embêtant, puisque mais tous les rois de France ne se sont pas fait sacrer à Reims. Beaucoup d'autres se sont fait sacrer en d'autres... Enfin, quelques-uns se sont fait sacrer en d'autres lieux. La plupart, c'était Reims. Alors, nous allons parler avec Maïté Vallès-Bled, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Chartres, de cette exposition qui rentre en fait dans le cadre de toute une année qui va être consacrée à la thématique Henri IViste.
Oui, il s'agit d'une exposition qui se propose... de faire connaître mieux cette image de l'image de ce roi qui, bien que très populaire, n'est pas forcément très
connu.
Très connu. Donc nous avons choisi de présenter cette exposition autour de l'articuler autour du sacre. Mais bien évidemment, pour préparer ce sacre, nous nous sommes intéressés également aux années qui l'ont précédé. Et pour aller un petit peu plus loin également dans la connaissance de cette personnalité qui était une des grandes personnalités du XVIe siècle, nous avons prévu une espèce de prologue à l'exposition qui concerne plus spécifiquement la Navarre.
Alors c'est excellent parce que c'est totalement inconnu.
Voilà, c'est totalement inconnu, et particulièrement dans nos régions du Nord. La Navarre, c'est une espèce de royaume mythique dont personne ne sait exactement à quoi il correspondait. Et on se rend compte très vite que, à l'époque où Henri IV est né, la Navarre française, puisqu'il y a eu deux Navarres, était en fait réduite à une peau de chagrin.
Très peu de choses.
Les Espagnols, les rois catholiques avaient mis la main sur la Haute Navarre, c'est-à-dire la plus grande part du territoire navarrais. Et les rois de Navarre, depuis notamment Jean d'Albret, Henri d'Albret et Jeanne d'Albret, donc la mère d'Henri IV, ont tous essayé de reconquérir ce royaume perdu sans jamais y parvenir.
Ils ont fait mieux, puisque vous savez que avec l'édit d'union d'Henri IV, la France a été annexée à Navarre.
Oui, enfin ça c'est ce qu'on dit beaucoup dans le sud-ouest, d'où je suis d'ailleurs, et on en est tout à fait convaincu malgré toutes les preuves historiques du contraire. Mais il faut quand même préciser que lorsqu'en 1607, effectivement, Henri IV a uni la Navarre et le Béarn à la couronne de France, il s'agissait d'une union beaucoup plus que d'un rattachement, en tout cas dans son esprit. Et Henri IV, donc toute sa vie, est resté attaché à cette Navarre dont il portait le titre de souverain, qu'il avait annexé à son titre de roi de France. C'est un titre qu'il a toujours tenu à faire figurer dans... associé à celui du royaume du trône de France.
Ah, ça c'est un peu le prologue pour bien replacer le personnage.
C'est un petit peu le prologue.
Voilà,
bon, qu'est-ce
quand même
que
pas
c'est
n'importe qui,
cette Navarre, voilà. Qui est ce roi de Navarre? Et puis bon, Henri IV était quand même très imprégné de cette culture, de cette partie au sud du royaume, et également de la culture protestante qu'il avait reçue de la part de sa mère notamment. Même si au fond Henri IV était peut-être moins huguenot qu'on a bien voulu le dire, car finalement dès sa petite enfance il avait très souvent navigué, en dehors d'ailleurs de sa propre volonté, entre les deux religions, à la suite des différentes prises de position de son père.
Il est né catholique, il s'est converti au protestantisme, il s'est refait encore une fois catholique, puis à nouveau protestant.
Oui, alors je dirais qu'on l'a fait naître catholique, on l'a converti au protestantisme, on l'a reconverti au catholicisme,
je crois que
et puis il a été élevé dans le protestantisme.
C'est un homme de foi,
tout à fait,
contrairement à ce qu'on pense, c'est un homme de foi.
Et sans doute ne faut-il pas voir dans l'abjuration d'Henri IV une seule manœuvre politique qui lui permettait d'accéder au trône. Je crois que Il est resté, bon, d'une part toute sa vie fidèle, d'une certaine manière, à cette religion protestante qui avait été la sienne, mais il était en même temps très 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 ouvert et très intéressé par ce qui relevait de la religion catholique, et son initiation a certainement été quelque chose de très sincère. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait une foi profonde et authentique, et dans de très nombreux de ses écrits, on peut noter des références à Dieu qui ne sont pas à mettre en doute, enfin dont la sincérité n'est pas à mettre en doute.
Donc après ce prologue, il y a trois autres thèmes de l'exposition.
Après ce prologue, donc nous continuons le cheminement à travers ces années, ces quelques 20-30 années qui ont précédé le sacre, d'une manière très sommaire, mais je crois qu'on ne peut pas aborder le sacre d'Henri IV sans au préalable faire mention de cette situation extrêmement complexe qui était celle du royaume dans la deuxième partie du XVIe siècle. Nous avons également consacré une petite salle à la ville de Chartres, car Chartres, à un moment donné, donc, s'est trouvé hissé au rang de capitale du royaume, sans avoir véritablement fait grand-chose pour cela, en tout cas de manière préméditée. Et il était important, je crois, d'essayer d'expliquer les raisons qui l'ont amené à tenir ce rôle. Ce qui est assez amusant, finalement, dans le choix de la ville, nous allons commencer par la raison peut-être la moins sérieuse, mais peut-être quelque part aussi la plus authentiquement historique, et en tout cas la raison initiale. Henri IV venait à rencontrer Gabriel d'Estrées en 1590, et l'oncle de Gabriel d'Estrées, François d'Escoubleau de Sourdis, était gouverneur de Chartres et venait d'être chassé de la ville par la Ligue qui donc s'était emparée de Chartres. On sait que lorsque Henri IV a rencontré Gabriel, malgré les empressements multiples dont il a fait preuve, elle n'a pas tout de suite répondu favorablement. Et donc le roi, qui était tout à fait désireux de faire plaisir à sa belle, a trouvé un moyen qui consistait à faire plaisir à sa famille. Donc il a cédé.
T'es malin, le Béarnais.
Il a cédé à oui. il a cédé aux sollicitations de Sourdis, qui l'incitait donc à reprendre sa ville. Et effectivement, bon, Henri IV a mis le siège devant Chartres en 91, au bout de 3 mois, la ville était reprise et il rétablissait Sourdis non pas dans ses fonctions de gouverneur mais de lieutenant général de la ville, et un autre oncle de Gabriel devenait gouverneur. Donc finalement ce rôle de Chartres.
Oui, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Il y a des auditeurs qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Un auditeur qui dit très étonné d'entendre dire qu'Henri IV était très populaire. Ce n'est qu'après sa mort qu'on a falsifié sa légende.
Alors,
la meilleure preuve est qu'il a été assassiné. Combien de fois a-t-il changé de religion? Bah ça, on l'a dit, c'est pas vraiment un changement de religieux, mais enfin, c'était comme ça. Alors c'est voilà, bah c'est un roi qui est pas populaire.
La légende d'Henri IV est née de son vivant et est née finalement très peu de temps après sa naissance. Alors évidemment, la publicité qu'a fait autour de cette naissance son grand-père, Henri d'Albret, qui était si heureux d'avoir un descendant enfin mâle et vivant, n'a certainement pas été étrangère, et les historiens de la cour de Navarre se sont empressés de construire un mythe, notamment autour de la naissance. On a parlé lorsque l'on lit l'histoire de la naissance d'Henri IV, on a l'impression, et Jean-Pierre Bablon l'a fait remarquer, d'assister à la naissance de Gargantua. Le mythe naît au moment même même où l'enfant naît. C'est assez extraordinaire. Donc ça, je crois que ça ne peut historiquement pas être mis en doute. Et Henri IV lui-même, d'ailleurs, de son vivant, lorsqu'il sera devenu adulte, a contribué d'une certaine manière à la diffusion, en tout cas à l'élaboration de cette légende. Peut-être par son recours, et ça c'était tout à fait nouveau dans les stratégies des instances gouvernantes, si l'on peut dire à l'époque, par son recours à la communication, à la publicité, à la propagande. C'est sans doute le premier souverain qui a fait appel à tous les moyens de propagande qui pouvaient exister de son temps. Je pense à la gravure, je pense à la monnaie. On a dans cette exposition un certain nombre de gravures de Léonard Gautier qui ont immortalisé les faits les plus importants, ou en tout cas les faits capitaux de l'histoire d'Henri IV dans sa longue marche vers la conquête du pouvoir. L'entrée dans Paris est une des gravures qui a été le plus largement diffusée. Et donc, Henri IV a toujours été attentif à l'image qu'il pouvait, qu'il allait donner de lui-même, qu'il allait laisser à ses sujets. L'image du roi guerrier est apparue quand même à ce moment-là. Jusque-là, les rois n'étaient pas représentés de cette manière, et en tout cas pas dans de telles proportions. Donc le Henri IV en mars, allusion bien entendu au mars de la guerre victorieux, le mars de la victoire, l'Henri IV en Hercule, l'Henri IV en Zeus, l'Henri IV à cheval, bref, une immense majorité des représentations du roi, et c'est ce qu'essaie de traiter la dernière partie de l'exposition, est une image de roi guerrier et victorieux, symbole de ce roi qui finalement fut doublement roi, roi de par l'hérédité et de par le respect des lois fondamentales, de la loi fondamentale du royaume, l'application de la loi salique, mais aussi roi parce que l'hérédité n'avait pas suffi. Il avait été obligé de rallier son royaume, de partir à sa conquête, ville après ville, province après province, et d'unir comme ça autour de sa personne peu à peu un certain nombre de villes. Alors bien entendu, des événements importants ont aidé à ce ralliement, et notamment l'abjuration de Saint-Denis en 93 fut la première étape, et puis bien entendu par la suite le sacre d'Henri IV, le sacre de Chartres. Mais il faut quand même se rappeler qu'à l'époque où Henri IV a été sacré à Chartres, Paris lui était fermé
puisqu'il est rentré que quelques jours après.
Il est rentré presque un mois après, le 22 mars.
C'est extraordinaire parce que c'était aussi époque difficile. Alors il y a un grand nombre d'œuvres, dont certaines d'ailleurs qui sont, je crois, pour la première fois réunis dans le cadre de cette exposition, où on parle dans le dossier de presse d'environ 200 œuvres.
Oui, nous avons 225 numéros qui réunissent à la fois des peintures, des sculptures, des objets, des documents d'archives, des gravures. Une armure, qui est l'armure du maréchal de Montaubiron, qui était donc un des fidèles compagnons d'armes d'Henri IV et qui a assisté au siège de Chartres en 91. Donc c'était quand même l'occasion de la demander au musée de l'armée, qui a gentiment accepté de nous la prêter.
Quelle est la pièce qui vous touche le plus? Parce que je pense que vous avez tout manipulé, tout regardé. Quelle est la pièce qui vous touche le plus?
Vous savez, c'est une très belle période dans l'histoire de la création artistique, le XVIe siècle. Il est difficile de dire comme
chose.
Ça, c'est évident que bon, lorsqu'on se trouve devant le portrait enfant de Marguerite de Valois par François Clouet, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas envie d'abandonner du regard.
Vaut mieux la regarder en portrait qu'en cinéma, il paraît. Hein.
Je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas en parler.
On en a parlé il y a 15 jours.
Nous avons en revanche réuni des pièces qui n'ont jamais été montrées, en tout cas globalement, au public, et qui font partie de nos collections, qui sont les tapisseries. Nous avons une suite de tapisseries, de 5 tapisseries, représentant l'histoire de Moïse, qui avait été offerte par Nicolas de Thou, qui était donc l'évêque de Chartres, qui a officié le jour de la messe du sacre, qui avait été offerte à la cathédrale bien des années avant le sacre d'Henri IV. Et au cours de la préparation de la cérémonie du sacre, bon, il y a eu bien évidemment la construction des échafaudages traditionnels, puisque le sacre n'avait pas lieu à Reims, mais il n'était pas question de dévier à la tradition. Et donc on a reproduit à Chartres dans tous les domaines le mieux possible l'ensemble des éléments liés à la tradition. Donc c'est au-dessus de ces échafaudages qui étaient donc installés dans le chœur, à l'intérieur du tour du chœur derrière
ce qu'on appelait l'échafaud. Le roi était monté sur un échafaud, voilà, pour être bien vu de tout le monde.
Dans la deuxième partie de la cérémonie, lorsque justement il a reçu à la fois l'onction du sacre, lorsqu'il a prêté serment et lorsque il a reçu les objets du sacre, ce que l'on appelle également les régalia.
Il paraît qu'il ne faut pas dire régalia. Parce que c'est un truc d'origine anglaise, ça n'a rien à voir.
Il paraît qu'il ne faut pas dire.
Instruments.
Mais les objets du sacre, je crois que c'est quand même la meilleure manière de les définir. Donc seulement à ce moment-là, le roi montait justement par le biais de cet échafaudage au jubé, où là, enfin, il était vu par l'assemblée qui pouvait l'acclamer. Donc ces tapisseries ont été mêlées à des tapisseries de la couronne pour l'ornementation du chœur le jour du sacre. Et il était évidemment extrêmement intéressant de les réunir, d'autant que ce sont de très belles pièces de tapisserie qui proviennent d'un atelier de Bruxelles du début du XVIe siècle et qui portent la marque d'un lycier qui a été identifié, le lycier bruxellois Martin Rimbouts.
Alors toutes ces merveilles, on va pouvoir les voir donc à Chartres au Musée des Beaux-Arts. Le Musée des Beaux-Arts, c'est ravissant, c'est l'ancien évêché, c'est juste derrière, il y a les jardins de l'évêché, et puis alors, il y a ce petit bâtiment absolument super, bâtiment peut-être du 17e, non, de quelle époque est-il?
Alors la façade du musée est à la fois pour moitié 17e, pour moitié 18e, et l'aile sur les jardins est entièrement 18e. Voilà, Nous avons encore quelques parties 15e dans le musée, c'est l'ancien palais des évêques, qui est donc situé derrière le chevet de la cathédrale.
Alors, pour le public, c'est-à-dire que le vernissage, comme on dit habituellement, s'opérera le 30 juin, mais le public pourra bien sûr se précipiter à cette superbe exposition à partir du 1er juillet, et ce jusqu'au mois d'octobre, puisque je crois que la fin prévue est donc le 31 octobre.
Le 31 octobre.
Alors, va être adjoint à cette exposition un catalogue qui va être quelque chose aussi de tout à fait prodigieux, sensationnel, puisque vraiment les collaborateurs, à part Maïté Vallès-Bled, qui est présente aujourd'hui et qui a bien sûr participé à ce catalogue, enfin Emmanuel Leroy-Ladurie, Jean-Pierre Bablon, qui est vraiment le spécialiste archi reconnu d'Henri IV, Paul Mironeau, qui est le conservateur du Musée National de Pau, enfin ça, je cite pas tout le monde.
Robert Desimon, qui est professeur à l'École des Hautes Études, qui est aussi un spécialiste de cette période.
Moi, je suis un grand amateur de catalogue, celui-là, évidemment, j'irai à Chartres uniquement pour me le procurer et puis pour voir aussi cette exposition. Donc c'est ouvert tous les jours sauf le mardi, qui est le jour
de 10h à 18h.
Je sais pas pourquoi c'est le mardi que on ferme dans les musées.
Pourquoi? Bah, écoutez, non, moi non plus. Moi non plus. Il n'y a pas de règle. C'est une tradition, c'est une bonne question. Pourquoi le mardi?
En tout cas,
pourquoi un jour? Ça, je peux vous répondre. Parce que nous avons besoin d'un jour, d'une journée.
Tout le monde
a besoin
de se reposer encore.
Non, pas pour nous reposer, mais pour travailler à l'intérieur du musée. Car contrairement à ce que souvent le public pense, le personnel du musée est toujours dans le musée le mardi. Ce n'est pas un jour de congé, c'est un jour de gros travail qui permet justement, du fait de sa fermeture au public, de procéder à un certain nombre de manipulations dans les salles.
Merci beaucoup d'être venu nous parler avec tant de savoir et de sympathie de cette exposition qu'on recommande bien sûr à tous nos auditeurs d'Île-de-France. Vous voyez, par exemple, comment dire, un auditeur nous dit que Henri IV, on parlait de cheval tout à l'heure,
oui.
Le mythe d'Henri cheval, etc. Il a calculé, c'est magnifique, il aurait fait 20 000 km à cheval pendant...
Il doit être dans le livre des records.
Ben oui, il est dans le Guinness. On n'a pas le droit de dire Guinness ici, c'est ça, faut dire comme tu es du français.
Pour clore le sujet, je voudrais donner un message d'un monsieur qui a appelé pour dire un message absolument fabuleux. Il dit, je suis bolchevique, pur et dur, je vous écoute souvent, le bon roi Henri IV, ce n'est pas une légende, il a mis fin aux guerres de religion, c'était un brave mec.
Ben voilà, alors si les bolcheviques sont d'accord, c'est très gentil. Donc c'était pas un bolchevique qui a assassiné Henri IV alors.
Non, c'était pas un bolchevique.
Non, mais il existait autre chose.
Je crois que si effectivement la popularité d'Henri IV, au-delà de tous les facteurs que nous avons évoqués tout à l'heure, a été aussi grande, c'est certainement parce qu'il a été le roi de la réconciliation et de la tolérance.
Voilà, avis aux hommes politiques. Alors, merci infiniment, et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à Chartres, et que, grâce à cette émission de ce soir, eh bien, vous aurez beaucoup de Parisiens, ou d'habitants de nos banlieues, qui sont pas toutes aussi agitées qu'on le dit, qui iront vous voir à Chartres et découvrir cette magnifique exposition, ouverte donc au public à partir du 1er juillet. Un message, vous voulez encore dire quelque chose? Non, pas de message. Merci beaucoup pour...
Je vous remercie aussi.
Non, du tout, d'être venu de si loin, quand même. C'est gentil. Et nous allons faire l'effort, nous aussi, les Parisiens, nous irons
à Chartres. Ce n'est pas le bout du monde.
Surtout que là, maintenant, le temps des pèlerinages étant passé, on peut prendre le train sans avoir honte. Hein, à moins que vous vouliez y aller, vous, Saint-Pierre Chanel, là, vous voulez y aller à pied, non?
Ah, vous savez, c'est une petite tradition, quand même.
Petite tradition. Ben alors, vous irez
avec quelques milliers.
Voilà, vous irez à l'exposition à Chartres à pied. On peut organiser un chapitre spécial, si vous voulez, départ Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. Hein, en trois jours de temps. C'est très bien, c'est très bien. C'était Guillaume Golfier qui s'exprimait avec son humour habituel. Merci infiniment. Pour faire une transition musicale, pour opérer une petite transition musicale, on va écouter alors une musique beaucoup plus ancienne que celle qu'on a entendue. C'est une musique de l'époque, c'est un conduit. En plus, c'est quelque chose qu'à voir avec vous et avec notre prochain orateur. Puisque c'est un conduit qui a été écrit pour le couronnement du roi Louis VIII, qui a été sacré, alors là j'ai mis mes lunettes parce que je vois plus clair, le 6 août 1223. Donc il y a sacre d'un côté et puis Louis VIII qui est quand même un descendant de Louis VI dont nous allons parler tout de suite. Alors on écoute, c'est bien sûr l'ensemble Venance Fortunate qu'on a déjà eu l'occasion d'écouter souvent à cette antenne et ce petit morceau s'appelle Beata Nobis Gaudia. Voilà, nous revoilà quelques secondes en attendant de passer la parole à Michel Burr. Je suis tenu, bien sûr, comme nous le sommes tous dans cette station, de faire passer le petit Bobino qui vous convie tous à la fête de Radio Courtoisie le dimanche 26 juin.
Dimanche 26 juin, fête de la courtoisie. Au palais de la mutualité, des centaines d'écrivains et d'artistes vous dédicaceront leurs œuvres dimanche 26 juin de 10h à 19h. L'équipe de Radio Courtoisie vous invite à vivre avec elle cette journée d'intelligence et d'amitié. Profitez-en pour compléter ou constituer votre bibliothèque. L'entrée n'est que de 150 francs pour la journée, buffet campagnard et vin de Radio Courtoisie compris. Entrée gratuite pour les enfants escortant leurs parents. En demandant dès maintenant votre billet, vous faciliterez notre tâche. Envoyez-nous un chèque accompagné d'une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 26 juin de 10h à 19h, fête de la courtoisie au palais de la mutualité, entrée 150 francs. Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Voilà, après ces mâles accords qui sont pas vraiment le mode grégorien, mais enfin c'est bon, ça décoiffe. Il y a une dame qui nous a téléphoné pour dire comment se fait-il que dans les châteaux restaurés des rois de France, il n'y a pas de crucifix et autres insignes de chrétienté, parce que la République, par définition, elle est laïque, et qu'elle a chassé les crucifix, et pas seulement des châteaux restaurés de nos rois.
C'est la loi de séparation.
C'est la loi de séparation de l'Église et de l'État, voilà. Alors, je salue donc Michel Bure, historien qui vient de nous régaler d'un livre aussi magnifique à lire qu'à manipuler. Parce que le livre, il y a aussi un plaisir tactile. Le livre. Et je dois dire que cette collection Acteurs de l'Histoire de la Bibliothèque Nationale, dont un des responsables est venu sur cette antenne il y a peut-être une semaine ou 8 jours, ce livre est absolument exceptionnel. C'est un livre fait à l'ancienne, c'est-à-dire là, bien sûr, c'est pas de la photocomposition, c'est composé au caractère, enfin, c'est absolument invraisemblable, la qualité, c'est un garamond, c'est absolument superbe. Alors, c'est un livre très beau, un très beau papier, et autant il est agréable de manipuler cet ouvrage de qualité, autant il est encore plus agréable de le découvrir. Et je vais vous demander, bien sûr, Michel Bure, de nous présenter un peu le personnage de Sugère et également le texte, ou plutôt les textes qui sont inclus dans cet ouvrage, sachant que c'est une traduction et que, à ma connaissance, moi, j'avais jamais lu encore ça dans une traduction complète.
Oui, Sugère a écrit un certain nombre d'ouvrages de circonstances, comme ses rapports d'administration, mais il a écrit aussi La Geste de Louis VI, que l'on appelle habituellement la vie de Louis VI le Gros. Alors j'ai supprimé l'adjectif le Gros parce qu'il n'est pas très, comment dire, respectueux du personnage et l'adjectif ne vient jamais sous la plume de Sugère. Et deuxièmement, ce n'est pas une vie, c'est une geste au sens épique du terme, c'est-à-dire que Sugère a sélectionné dans les événements de la vie de Louis Gros, Louis VI, il ne faut pas que je tombe dans l'habitude d'autrefois, les événements significatifs et ceux qui pouvaient être donnés au fond en exemple. Par conséquent, on a le récit des exploits du roi.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de proposer ce thème à la collection Acteurs de l'Histoire? Donc, c'est un livre
édité, d'ailleurs, il faut le dire, même si parfois, je trouve que c'est pas à l'état nécessairement d'être imprimeur, mais là, je trouve que ça vaut le coup. Vraiment, c'est un livre superbe.
Il faut dire que c'est une collection dirigée par Georges Duby, et c'est Georges Duby qui m'a demandé de faire cette édition des œuvres de Sugère.
Il n'y avait plus de traduction, il n'y avait pas de traduction.
Alors, le rapport d'administration n'a jamais été traduit, et n'a jamais été imprimé, en version française, bien entendu. Le rapport sur la consécration de l'abbatiale de Saint-Denis avait été traduit par Don Leclerc. Et je dirai un mot tout à l'heure du problème des traductions. Il existait donc une traduction, mais qui n'avait pas été largement diffusée. Le fragment de vie de Louis VII n'était pas traduit. Et la vie de Louis VI avait été traduite en 1927 par Henri Vaquet. Alors je me suis trouvé devant un problème qui consistait à tenir compte de ce qui avait été fait, à traduire ce qui n'avait jamais été traduit. Et je me suis rendu compte que pour être un bon traducteur, il fallait d'abord savoir le latin, ce que mes prédécesseurs savaient très bien, mais que l'on traduit d'autant mieux qu'on connaît la période. Car il y a un vocabulaire juridique, il y a un vocabulaire militaire, il y a un vocabulaire de l'architecture que souvent les traducteurs ne maîtrisent absolument pas. Et j'ai fait un gros effort de ce côté-là. Si la traduction a quelques mérites, je pense que ces mérites se situent à ce niveau.
En tout cas, elle est d'une grande limpidité, je veux dire, et on découvre des épisodes, enfin, notamment dans la vie de Louis VI, bien sûr, des épisodes tout à fait extraordinaires, enfin sensationnels. Pour moi, j'ai pas un autre mot que sensationnel, que je trouve un joli mot de la langue française, qu'on n'utilise plus beaucoup d'ailleurs, sensationnel. Non, vous êtes d'accord?
Oui, il y a des aspects sensationnels, mais j'ai alors peut-être aussi fait quelque chose d'assez neuf de ce côté-là. J'ai procédé à un nouveau découpage des chapitres, car le découpage traditionnel relevait de quelques scribes du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, disons du XVIe siècle probablement, et c'était des chapitres qui n'avaient au fond ni queue ni tête, c'est-à-dire que les coupures étaient faites de manière injustifiée. Alors je me suis un peu penché sur la question et j'ai redécoupé pratiquement la geste selon ses articulations, si j'ose dire, naturelles. Alors les articulations naturelles, c'est l'unité du récit, bien entendu, mais c'est aussi un indice sur la manière dont Sugère travaillait. Sugère était quelqu'un de surchargé de travail, il était abbé de Saint-Denis. Il avait, au moment où il écrivait, la responsabilité d'un énorme chantier de construction. Il était tout de même le responsable du temporel et de l'administration et des finances de l'abbaye, donc des finances du chantier de l'abbatiale. Il est le conseiller du roi, donc il a de quoi occuper ses 24 heures avec, par-dessus le marché, les prières qu'il doit réciter avec sa communauté, car c'est un excellent abbé qui ne se libère pas, si vous voulez, de ses obligations religieuses. Par conséquent, il écrit, probablement lui-même, parce qu'il avait un procédé tachygraphique, sténographique, qui lui permettait d'écrire très très vite. Tout le monde était étonné de la manière dont il écrivait. Mais il dictait probablement à un moine les chapitres de ses œuvres, et on s'aperçoit que quelquefois il fait des chapitres de 20 lignes, 30 lignes, 10 lignes, parce qu'on a l'impression qu'il dicte entre deux portes ou entre deux affaires, et quelquefois il fait des chapitres plus longs. Donc il y a une grande inégalité dans la longueur des chapitres, mais qui traduit véritablement la manière dont Sugère a procédé pour rédiger son œuvre.
Alors, l'intérêt, par exemple, reprenons une petite discussion sur la geste de Louis VI. Bon, il a sélectionné, bien sûr, dans cette geste, il a sélectionné des... Vous dites qu'il a essayé de rendre les choses un peu épiques. Bon, la façon, peut-être... est-ce que c'est un historien? Voilà la question que je vais vous poser. Est-ce que Sugère est un historien ou est-ce que c'est une... Est-ce qu'il est, quelque part, quand même, une mine pour les historiens d'aujourd'hui?
Il est certainement une mine pour les historiens d'aujourd'hui, mais pas dans tous les domaines. Je prends une comparaison, il y a d'autres contemporains qui ont parlé de Louis VI, par exemple Guibert de Nogent parle de Louis VI à propos de l'affaire de la commune de Laon. Il le fait en des termes qui ne sont pas louangeurs le moins du monde. Sugère ne parle pas du tout de cette affaire. Mais sous la plume de Guibert de Nogent, le roi n'est pas fidèle à sa parole, le roi est cupide, le roi ne pense qu'à accumuler un peu d'argent, il est toujours à court d'argent comme tous les gouvernements, par conséquent, il a quelques excuses, mais si vous voulez, Guibert de Nogent souligne des traits de caractère ou des traits de comportement que Sugère ignore complètement. Non, Sugère veut représenter, enfin, le roi Louis VI, pour lequel il a à la fois de l'admiration et de l'amitié, et en même temps... vis-à-vis duquel il développe insidieusement une certaine critique, malgré tout. Il le présente comme un personnage d'une vaillance, d'un courage, d'une capacité guerrière tout à fait digne des héros. D'ailleurs, il y a quelques comparaisons qui sont faites avec Hector. Ceci dit, c'est un homme vaillant, c'est un homme courageux, c'est un preux, mais ce n'est pas un sage. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas beaucoup. Heureusement qu'il a autour de lui des gens qui réfléchissent pour lui. Et Dieu sait, comme il est tout de même intelligent et relativement docile, il met sa force et sa prouesse au service de ce qui doit être, au fond, l'idéal d'un gouvernement, c'est-à-dire la justice et le droit. Et c'est en cela qu'il est un grand roi, et c'est en cela que finalement Sugère l'admire beaucoup.
Alors, Sugère est une figure anticipatrice de Richelieu ou de Mazarin, alors on pourrait dire.
Ah, alors attention, parce que c'est ce qui a nui finalement à Sugère, c'est qu'on l'a vu toujours à travers les lunettes de Richelieu. Richelieu a d'ailleurs fait de Sugère le premier des grands serviteurs de l'État. Personne n'y avait pensé avant lui,
Mais au palais cardinal, il a fait dans une galerie représenter les grands serviteurs de l'État, lui-même bien entendu. Mais celui qui ouvre la liste, en quelque sorte, c'est Suger. On a encore au musée de Nantes un certain nombre de peintures qui viennent de la galerie du palais cardinal. Par conséquent, Richelieu, dans une certaine mesure, a donné à Suger a fait de Suger ce personnage officiel, ministre, premier ministre, comme disent un certain nombre d'historiens du XVIIIe siècle qui sont intéressés à lui, et qui a faussé un peu, au fond, tout ce qu'on connaît du personnage.
Mais il a même été presque gouverneur, lieutenant du royaume au moment où le roi est parti.
Il a été, comme on dit, régent, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il a été le roi à la place du roi, ça ne fait aucun doute, et ça a été dit d'ailleurs par le chanoine qui a rédigé son épitaphe. Il a gouverné le royaume effectivement pendant 2 ans. Et tout à l'heure, nous avons parlé de la couronne. C'est un mot qui vient à cette époque-là, au XIIe siècle, et particulièrement sous la plume de Suger. Qu'est-ce que cela veut dire? Jusqu'à présent, le roi avait toujours été en France. Et voilà qu'avec Louis VII, il s'en va en Orient. Et par conséquent, le roi est absent. Et qu'est-ce qu'il reste? Quand le roi est parti, il reste la couronne. Voilà une notion nouvelle qui se dégage pratiquement des événements et des circonstances que Suger va utiliser. Et pendant 2 ans, c'est Suger qui porte la couronne ou qui garde la couronne. Donc Suger n'est pas un idéologue, n'est pas quelqu'un qui se conceptualise, c'est un homme d'action, mais c'est l'action qui le fait penser. Et quand il se trouve en face de circonstances nouvelles, il trouve des mots nouveaux pour dire des choses nouvelles. Et ça, c'est très important.
Ça, c'est très, je veux dire, dans l'histoire de la fonction royale, ce sont précisément ces cas, ces casus, comme diraient les juristes, qui créent en quelque sorte le droit, ou qui complètent le droit. Là, c'est très intéressant de dire que, en fin de compte, le roi est une personne, bien sûr, mais au-delà de sa personne, il incarne une fonction. Cette fonction, elle ne peut pas s'arrêter, soit parce que le vif saisit le mort ou le mort saisit le vif, etc., soit parce que même quand il n'est pas là, qu'il est au loin, bien, il y a la couronne.
Il y a la couronne. Les Anglais parleront au XVIe siècle des deux corps du roi. Il y a le corps politique et puis il y a la personne physique.
C'est très
cette notion-là est déjà dans les œuvres de Suger.
Moi qui suis d'une curiosité un peu... comment est-ce qu'on peut dire? Les chats sont curieux. Pas maladives, mais les chats... Félix, Catus, je suis très curieux. Ça prend combien de temps pour aboutir un livre comme ça?
Ça dépend du temps qu'on y consacre, mais j'y ai consacré
beaucoup
de temps, figurez-vous, et l'Imprimerie nationale m'a mis l'épée dans les reins. J'aurais préféré avoir un peu plus de temps pour polir encore un peu plus cette traduction.
Je tiens à préciser que auteurs sont les mêmes.
Oui, ils sont toujours en retard, ils sont tous toujours...
Non, mais j'aurais dû montrer plus de résistance que je n'en ai montré.
Surtout
je n'ai pas de regrets, mais... Non, la traduction, encore une fois, je l'ai appuyé sur l'expérience de traducteur antérieur. J'ai eu les conseils d'un certain nombre de maîtres éminents qui ont bien voulu relire ce que j'ai fait. Et par conséquent, je crois qu'elle est bonne. Ceci dit, encore une fois, on a toujours un petit regret ou... Quand on se relit, on se dit pourquoi a-t-on mis tel mot plutôt qu'un autre, alors on se précipite sur le dictionnaire et on s'aperçoit qu'on a eu raison, mais enfin...
Je répète, tous les auteurs sont les
mêmes. Voilà. C'était encore une assez chère qui mettait très, très judicieusement son grain de sel, tous les auteurs sont toujours les mêmes. Alors c'est une collection donc magnifique, je redis quand même le titre donc présenté par Michel Bure et aussi traduit par Michel Bure la geste de Louis VI, mais il n'y a pas que ça, on trouvera aussi dans cet ouvrage le mémoire de Suger sur son administration abbatiale, puisqu'il était aussi abbé, le mémoire sur la consécration de l'église abbatiale. Alors c'est un superbe livre, vraiment un bel objet qui existe en 2 éditions. On avait une édition brochée, comme on dit familièrement, celle que j'ai sur la table, qui ne coûte que 170 francs, et puis une édition reliée qui coûte un tout petit peu plus cher, 270 francs. Voilà, c'est en vente depuis le début de cette année. Un auditeur pose une question à laquelle je pense vous allez pouvoir répondre. Suger est-il originaire de la région de Saint-Omer?
Ah, alors, bon, il y a eu 2 légendes qui ont couru au XIXe siècle quand on s'est intéressé à Suger. La première a consisté, je vais y revenir, à en faire le frère de l'évêque d'Arras, Alvise. Et deuxièmement, dans des perspectives, si vous voulez, pédagogiques propres à la Troisième République, on en a fait un petit paysan, comment dire, sorti du servage que ses talents avaient propulsé au plus haut niveau de l'État et de l'Église. Les deux légendes sont fausses. Il était certainement d'une origine, disons, aux limites de... comment dire, de la chevalerie ou de la grosse paysannerie de l'Île-de-France, de la région de Chennevières, Louvre, Roissy, enfin ce coin-là, à 20 kilomètres à peu près de l'abbaye de Saint-Denis. Mais il avait une parenté parmi les petits seigneurs de la région. Et puis alors l'autre erreur commise par un érudit, ça a été d'en faire le frère de cet évêque d'Arras. Et par conséquent, comme l'évêque d'Arras était originaire de Saint-Omer, Sugère s'est trouvé né à Saint-Omer. Ce qui fait que la statue de Sugère se trouve sur la place Saint-Bertin à Saint-Omer.
À Saint-Omer. Voilà donc l'explication.
La statue qui se trouvait d'abord sur le pont devant la Chambre des députés, donc, que Louis XVIII avait fait mettre là, qui a été ensuite transporté dans la cour de Versailles, et qu'ensuite on a transporté à Saint-Omer.
J'espère que nous aurons répondu à cet auditeur. Merci infiniment Michel Bure, bravo encore une fois pour ce très beau livre, donc de Sugère, la geste de Louis VI, publié à l'Imprimerie Nationale, magnifique travail, aussi bien de la part de l'historien que de la part des compagnons imprimeurs de l'Imprimerie Nationale qui ont fait là un très beau travail. Avant de passer au sujet suivant, nous allons... écouter un peu de musique, parce que ça me repose pendant ce temps-là. J'ai pas à penser, j'ai pas à parler, j'écoute la musique et je rentre totalement dans la musique. Et puis pour les auditeurs aussi, c'est agréable, ça fait une petite pause, un peu comme ça, je sais pas, aller se couper une petite tranche de pain ou aller se cueillir un petit fruit dans le jardin.
Manger
une crêpe, voilà le breton, enfin le breton vendéen qui s'agite. Alors nous allons écouter, c'est tout à fait, plus du tout dans le même style, mais je voulais quelque chose d'un petit peu beau, un peu glorieux. Alors on va écouter André Campra. Cet extrait de la suite de Tancrède, alors ça s'appelle La Marche de Triomphe. Donc Campra est un auteur du 18e, enfin il est à cheval entre le 16e et le 17e et le 18e, et on va écouter donc cette Marche de Triomphe, c'est pas triste. Nous étions en pleine discussion extraordinaire sur les deux corps du roi, la fonction royale, etc. Et Michel Bure était en train de s'en entretenir avec notre ami Rénal Sécher, que je salue encore, je salue surtout la patience qu'il met, puisqu'il est là depuis, il est venu de sa Bretagne, non pas natale, mais hospitalière.
Natale, breton, d'accord.
Alors, celui qui dit que je vais les vexer, c'est Guillaume Golfier, qui lui ne se vexe de rien d'ailleurs, d'autant plus de mérite, Rénal Sécher, d'être là ce soir. voir, à part toute la sympathie et l'affection qu'on a pour lui, c'est que ça, l'un de ses enfants a eu un petit accident, pas très grave, mais enfin, ça a quand même cassé le bras, à 3 ans et demi, c'est difficile, mais en fait, il a quand même tenu à assumer cette émission à venir de loin, pour venir vous entretenir d'un très beau projet, qui est plus qu'un projet, parce que maintenant, ça s'est déjà un petit peu, ça a un peu démarré l'année dernière, je crois, il va nous parler de ce projet qui est la restauration d'une chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, qui est donc sise à la chapelle Basse-Mer, que l'on connaît, qui est devenue universellement connue, ce petit village, depuis que vous y avez consacré cette thèse extraordinaire qui vous a valu beaucoup d'admiration et aussi beaucoup d'ennemis, il faut le dire. Pour l'heure, c'est plutôt les ennemis qui semblent avoir gagné sur les admiratifs.
Ah non, 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 je crois que vous êtes pessimiste. Oui, on revient à cette notion de génocide sur la Vendée. Non, non, je crois que, au contraire, ceux qui ont été extrêmement violents, je pense à Masgallo entre autres, ont parfaitement accepté cette notion et reconnu s'être trompés.
Ils sont venus à récipiscence.
Oui. Ils l'ont d'ailleurs reconnu. Évidemment, il y a encore le problème de l'université française, qui est encore une université très idéologiquement qui est marxiste, on peut le dire. Mais petit à petit, les choses évoluent. Vous savez, on a eu tellement de documents, on a montré les documents, etc. Donc je crois que cette notion de génocide est passée au sein du grand public, elle est passée dans le monde de la communication. Il reste encore, effectivement, quelques résistants. Mais vous savez, c'est le même problème pour Katyn. On a beau savoir exactement ce qui s'est passé à Katyn, et bien encore certains qui refusent de reconnaître ça, malgré le fait...
Même aussi le hashtag. J'ai appris hier au soir, je ne savais pas. Vous voyez comme quoi je suis vraiment un crétin. Moi, je pensais que c'était les nazis qui avaient fichu le feu au hashtag et qui avaient accusé ensuite un malade de, je sais pas quoi, de Hollandais. Ben, pas du tout. Il paraît vraiment que c'est le Hollandais qui a fichu le feu pour de bon.
Oui.
Ben, ils ont simplement utilisé ça au plan médiatique, le plus qu'ils ont pu après. J'ai appris ça hier au soir. Oui.
Donc la notion de génocide est passée, c'est tout à fait clair. Elle est reconnue, je dirais presque universellement reconnue. Et d'ailleurs, quand on va en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, on parle du génocide mondial. Ça, c'est tout à fait clair.
Alors, donc, la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, Quesaco.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un lieu de promenade quand j'étais enfant, puisque j'ai vécu à la chapelle Basse-Mer, qui est en Bretagne et en Vendée militaire. C'est une commune carrefour entre la Bretagne, puisque c'est la première commune de la Vendée militaire, et de la Bretagne, excusez-moi, et c'est aussi la première paroisse de la Vendée militaire insurgée. Donc moi j'ai passé mon enfance ici, et dans la campagne de la chapelle Basse-Mer, il y avait ce tas de pierres qui était abandonné. Et lorsque j'étais enfant, j'avais un de mes grands amis qui était prêtre, qui s'appelait d'ailleurs l'abbé Maisonneuve. Et un jour, en passant devant cette chapelle...
Maisonneuve, disons, c'est... Enfin bon, je ne veux pas dire plus.
En passant devant cette chapelle, il me dit...
Vous ne croyez pas à la Providence après ?
Écoute, Reynald, essaye un jour d'avoir cette chapelle et promets-moi de la restaurer. Et je lui avais dit, pour lui faire plaisir, très bien, je le ferai. Et puis en fait, j'ai passé 17 ans. Avant de l'avoir, et pour des raisons tout à fait simples, c'est qu'il y avait 11 copropriétaires et personne ne voulait la vendre. Donc j'ai travaillé au corps à corps.
Mais elle était dans un état...
Déplorable. Il ne reste plus que les murs, tout était effondré, etc. Alors cette chapelle est intéressante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle date du XVIe siècle. Or, vous me direz que ça, c'est tout à fait banal. Non pas. Localement, ce genre de bâtisse est rarissime pour la raison tout à fait simple, c'est que la guerre et le génocide en Vendée ont tout détruit localement. Il n'y a quasiment plus d'édifices religieux datant du XVIe siècle. Et la deuxième raison, c'est que ce bâtiment est du pur jus rural. C'est vraiment une chapelle rurale qui restait quasiment en l'état. Et donc, lorsque je l'ai eu, lorsque je l'ai acheté il y a 3 ans, donc on s'est dit il fallait la restaurer. Alors, la restaurer, quoi faire? Alors, pour commencer, nous avons fait faire des devis. Et lorsqu'on a vu les devis, on a eu un petit haut le cœur, puisque on s'est rendu compte que les artisans nous demandaient 1,6 million. Donc,
on parle en ancien franc.
En nouveau franc.
En nouveau franc.
Oui. 160 millions de centimes, puisqu'il faut refaire tous les murs, il faut refaire la toiture, il faut refaire le sol, il faut refaire les fenêtres, il faut refaire la porte, etc. Donc, je me suis dit que ce n'était pas possible. Et en parlant avec quelques amis, il me dit « Ah, mais tu n'as qu'à monter une association et on va la restaurer ». Puis on a monté effectivement l'association qui s'appelle « Mémoire du futur de l'Europe ». Et puis on s'est dit « Bon, on va y aller ».
Et alors, attendez, elle est située où, cette association Mémoire du Futur de l'Europe?
Alors, exactement, pour avoir l'adresse, c'est chez moi, c'est à mon domicile, Mémoire du Futur de l'Europe, donc 39 boulevard Barbeau, 35 530, Noyal-sur-Vilaine, c'est en Bretagne.
Alors, on va le redire, c'est 39 boulevard Barbeau, B-R-B-O-T. 35 530
Noyal-sur-Vilaine. Et mon téléphone, je peux le donner d'ailleurs, 99 04 00 69. Donc,
tant que vous ne nous demandez pas de vous le payer, votre téléphone, vous pouvez le donner autant de fois que vous voulez à la radio.
On a monté cette association et avec stupeur, nous avons eu 400 membres en l'espace de 8 mois.
Vous avez eu un peu d'écho dans la presse, quand même.
Oui, pas mal d'écho dans la presse. Ceci dit, la somme collectée était très faible, relativement faible, j'entends, puisqu'elle n'était que de 170 000 francs, d'autant plus que nous voulons ériger un monument à la femme vendéenne. Et puis on s'est dit, on va pas pouvoir la restaurer. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Guillaume.
Guillaume, on va vous passer le relais. Alors Guillaume, Guillaume Golfier, qui est un responsable, un éminent responsable du chapitre...
Qui est éminent, c'est pas moi. Le chapitre Saint-Pierre Chanel, qui intervient donc là en relais avec le projet de...
C'est un chapitre du pèlerinage de...
C'est un chapitre permanent du pèlerinage de chrétienté, qui marche donc traditionnellement tous les ans donc sur les routes de Chartres à la Pentecôte, qui s'est constitué il y a 4 ans et... qui, pour entretenir justement l'amitié et la vie spirituelle, culturelle qui avait pu se nouer durant les 3 jours de la Pentecôte, a maintenu des activités annuelles de formation, d'amitié, de prière, et ponctué par 2 temps forts qui sont, au moment de la Pentecôte évidemment, le pèlerinage, et puis l'été, la restauration d'une chapelle. Donc avec l'envie un petit peu de bâtir, de créer et de faire que de jeunes catholiques ou même de non-catholiques se lient dans une atmosphère de chrétienté avec tout ce que ça peut comporter d'esprit d'entreprise, d'enthousiasme, de jeunesse pour la restauration de quelque chose de concret. Il y a 3 ans, nous avons eu la chance de restaurer 3 jolies petites chapelles dans les Alpes. L'an dernier, la grande grâce, je crois, de restaurer une des dernières, la chapelle à côté de Don Rémy, la chapelle où Sainte-Jeanne d'Arc est à la messe tous les matins. Et le lieu hautement symbolique que nous proposait Rénal nous a vraiment emballé aussi, puisque donc à terme c'était amené à devenir la chapelle du souvenir vendéen, et ça restait actuellement une des dernières chapelles des guerres de Vendée, comme il vient de le dire. Donc nous proposons de faire cet été un camp chantier université, propre formule qui nous est propre, rassemblant donc une 40aine de jeunes gens, la moyenne d'âge...
Donc vous allez les faire payer pour le camp, puis en plus ils vont travailler, c'est ça le but de la manœuvre.
Et le pire, c'est qu'ils sont passionnés. Donc une 40aine de jeunes gens qui se réuniraient du 31 juillet au 15 août, pour dans une atmosphère donc d'amitié, de détente, de prière, d'action, les piliers qu'on connaît bien et qui marchent, de rebâtir cette chapelle, de suivre en même temps les après-midi de petites conférences. Bon, attention, c'est pas une université, c'est pas non plus un chantier uniquement, c'est pas non plus une université uniquement, c'est encore moins un monastère. Bon, donc on essaie un petit peu de coupler toutes ces petites dimensions, mais l'après-midi on a quand même un petit cycle de conférences pour nous former sur des sujets d'histoire, de chrétienté, donc touchant, je sais pas, la bioéthique, les guerres de Vendée,
les guerres de Vendée. Vous avez
il paraît qu'il est pas mal sur le sujet. Oui.
Notre ami Rénal Sécher vient voir quand même son chantier de temps en temps, je suppose. Mais c'est une excellente initiative. Alors, il faut donc lancer un appel aux auditeurs, aux plus jeunes, bien sûr.
La moyenne d'âge traditionnellement qu'on touche est de 20-25 ans.
On peut
élargir de 18 à 28.
Voilà. Si vous voulez participer à une, je dirais, à la fois bon de découvrir des camarades, des compagnons, sans cette étymologie.
Quel compagnon ?
L'étymologie du terme. Puisqu'ils seront à la fois compagnons, ils partageront le pain, puis ils partageront aussi le travail des compagnons. Si vous voulez vous remettre dans cet état d'esprit psychologique
bâtisseur de voilà, cathédrale.
De chrétienté qui se reconstruit, qui construit pour se reconstruire. Ouais. Si vous mettez dans cette dimension psychologique, je suis sûr que les grâces vont arriver et que ça va se transformer en une espèce d'alchimie spirituelle très intéressante. Mais il faut y aller. Alors, c'est du 31 juillet au 30 août.
Il y en a qui vont avoir peur. C'est du 31 juillet au 15 août.
Donc, seulement au 15 août. Bon. Vous faites quelque chose de spécial pour l'Assomption, non ?
Bien sûr. Bon. Une grande apothéose.
Avec une érection d'une croix, il faut le dire en granite.
Très bien.
Non, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas le temps de parler ici, mais qui ponctueront. Alors, ça fait peut-être les surprises aussi pour les auditeurs. Probablement une visite au Puy du Fou, des excursions dans la région, qui sont d'autant plus faciles. Je dirais que c'est Rénal qui a fait le guide. À vrai dire, c'est effrayant. Il y a une vingtaine de titres, des bandes dessinées aux vidéos. Tout a été fait par lui. Donc, je dirais que ça facilite un petit peu les choses.
Il faut peut-être parler de la finalité de la chapelle, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. La finalité de la chapelle, elle est tout à fait claire, c'est ce souvenir de l'extermination de la Vendée. Et nous avons la chance localement, dans le canton de Leroux-Bottereau, puisque cette chapelle dépend du canton de Leroux-Bottereau, d'avoir la liste des 3000 locaux qui ont été exterminés, avec non seulement les prénoms et les noms, mais aussi les sexes, les âges et les circonstances. Et donc on va faire graver ça sur les murs, un peu comme au Luxe-Boulogne, sauf que cette fois-ci, ça ne va pas être 654 noms qui vont être gravés, ou 564 plutôt, mais 3000. Et puis la deuxième chose, ériger cette statue à la Vierge, etc. Alors, ceci dit, on a besoin tout de même de quelques aides, notamment, on recherche un maçon qui pourrait encadrer le chantier, et éventuellement un sculpteur qui pourrait nous aider à tailler la pierre de granit ou la pierre. Puis on recherche bien sûr pour le futur une charpente, parce qu'il faut penser à la charpente. On recherche aussi des ardoises et on recherche bien entendu des objets cultuels, puisque cela sera une chapelle
qui sera ouverte au culte
et qui pourra être utilisée par tous ceux qui le désirent, puisqu'autour de cette chapelle, nous avons réussi à acheter 1 hectare. Donc, ça veut dire que dans le futur, il pourrait y avoir des pèlerinages, il pourrait y avoir des cérémonies, etc. Ça va être une chapelle vraiment ouverte. C'est pour la mémoire, c'est pour le souvenir. Et donc, dans ce sens-là, nous sommes tout à fait d'accord.
Ben, je trouve que c'est une magnifique initiative. Je crois que les auditeurs partageront ce sentiment que j'ai. C'est absolument formidable. L'idée de reconstruire, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que
surtout que c'est un lieu unique.
Où tout est détruit, pas seulement au matériel, mais aussi au spirituel. L'idée de reconstruire, c'est se remettre dans la perspective, justement, des gens comme Suger, des gens comme les bâtisseurs de cathédrales, bien sûr, avec modestie. On ne va pas refaire ce qui est le passé. Le passé, il faut regarder quand même devant soi, mais garder quand même comme quand on conduit une voiture. Il faut toujours avoir un petit œil sur le rétroviseur, parce qu'il passe derrière.
Peut-être préciser que la chapelle est grande, tout de même, puisqu'elle fait 100 mètres carrés.
Non, puis elle est belle.
Elle est très belle.
Bon, c'est vrai que c'est un petit peu désarmant, peut-être, de voir ces 4 jolis murs au milieu d'un champ et au bord de très beaux terrains de vigne. Mais bon, elle a quelque chose, c'est vrai, de très séduisant. Et,
magique.
Et de magie, je crois.
Alors, on fait appel aux dons, bien entendu, à l'association. Et on nous pose une question. Est-ce que le Conseil régional peut nous aider ? On l'a sollicité, de même que le Conseil général. Et pas parce que c'était nous, mais ça ne rentre pas dans le domaine d'intervention des structures administratives.
Bah, c'est tout à fait clair. C'est normal.
Mais ce qui est normal, ils ne peuvent pas tout faire.
Donc
c'est ça la finalité. ils peuvent contacter soit le chapitre.
Voilà, le chapitre Saint-Pierre Chanel dont je donne
les coordonnées. Les fonds régionaux d'action culturelle, ça coûte très cher, les fracs. Ça fait du burène dans tous les départements, veux-tu en voilà, mais ça pour ça c'est pas intéressant. Alors c'est pour ça que, c'est la raison pour laquelle les auditeurs de Radio Courtoisie vont se mobiliser aussi sur ce projet.
C'est un projet commun, collectif, il faut qu'ils le deviennent.
On en reparlera, donc, pour avoir des informations, etc., c'est une association animée par notre ami Rénald Secher, qui s'appelle Mémoire du futur de l'Europe. C'est un nom un peu extraordinaire. La mémoire du futur, c'est beau comme l'antique. Alors, c'est donc chez Rénald Secher, au 39 boulevard Barbotte, B-A-R-B-O-T. Mais les petits enfants du midi ont plus de chances pour faire les dictées, parce qu'on prononce tout.
Aïe.
Les moutons. Oui, c'est quand même plus facile que quand on dit les moutons. Mais oui. Au mieux être né à Marseille.
En Bretagne,
en Bretagne.
Alors, 39 boulevard Barbeau, 35 530, Noyal-sur-Vilaine.
Voilà, et quant au chapitre Saint-Pierre-Chanel,
allons-y pour le chapitre.
Ceux qui sont donc intéressés, et nous les souhaitons nombreux et rapides, parce que nos effectifs sont donc limités à une quarantaine de personnes, eh bien ils peuvent envoyer leur demande d'information à mademoiselle Fabienne de Pesquidou, P-E-S-Q-U-I-D-O-U-X, qui est donc au 12 Villa de la Croix Nivert, N-I-V-E-R-T, dans le 15e, et le numéro de téléphone est le suivant, c'est le 47 34 80 46. Voilà, nous vous espérons nombreux.
Je répète le numéro de téléphone.
Alors, on redonne le numéro de téléphone. Donc, pour s'agréger au camp
Saint-Pierre-Chanel.
Pas au camp de travail.
Non, surtout pas. Un chantier université.
Un chantier de jeunes.
Voilà, tout l'enthousiasme. Hein,
chantier de jeunes, on peut dire ça aussi ? Chantier de jeunes, un chantier de jeunes. Alors, 47 34 80 46 à Paris.
Voilà.
47 34 80 46. Et puis, pour prendre des informations, si vous voulez aider de façon encore plus approfondie l'association de Rénal Sécher, et on a besoin de maçons, on a besoin de charpentiers, on a besoin d'ardoisiers, on a besoin de tout, on a besoin de sous aussi. Alors, vous téléphonez, donc là c'est en province, donc habitant, ami auditeur de la région parisienne, il faut faire le 16. C'est le... Ben oui, mais il faut préciser.
Bon,
c'est le 99 04 0069. 99 04 0069.
Plutôt le soir. Juste un homme de la nuit, 22h, c'est parfait.
Voilà, donc, pas de problème. Mais on reparlera quand même de ce projet. Merci, Rénal. On aurait eu un million de choses à se dire, mais vous serez toujours le bienvenu, pas seulement dans ma chronique, mais vous savez que vous êtes ici un peu chez vous dans cette maison.
Et j'en profite peu, je dois reconnaître, mais j'habite
oui,
loin.
Oui, mais vous habitez loin, c'est ça le problème. Et puis malheureusement, nous n'avons pas encore de studio en Bretagne. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais enfin, peut-être qu'on organisera...
Que de la chapelle.
Puisque vous serez là-bas le 31 juillet au 10 août, c'est ça ?
Au 15 août.
15 août.
Voilà.
Alors, on fera peut-être, si vous le voulez, le 10 août, j'ai une émission le 10 août, on fera un duplex.
Ah, fabuleux.
Ça vous intéresse ?
Ah, très bien.
On s'appellera...
Et puis, pour la messe, le 15 août, ça serait bien d'avoir du monde.
Voilà, comme ça, on appellera pour les messes et tout, mais ça, il va y avoir beaucoup de messes de l'Assomption, ça va être magnifique, c'est-à-dire, il y en a partout en France. Alors, si vous voulez, on fait un duplex le 10 août avec vous, Rénal, et puis vous, Guillaume.
Parfait.
D'accord. D'autant plus que le vœu du 15 août, de Louis XIII, est dû à un habitant local qui est Goulaine.
Ah, j'avais pas fait le rapprochement.
Et oui. Madame de Goulaine est liée à la famille marquis de Goulaine, qui était le marquis local et dont le château existe toujours, château à visibilité, qui est intact.
Une chose qui se fait très rarement sur Radio Courtoisie, nous ferons le 10 août un duplex avec la chapelle Basse-Mère. Et nous verrons comment se passe, l'ambiance, etc., etc. Il faudra que vous ayez un téléphone près de vous, mais enfin...
Pas de problème.
C'est nous qu'on appellera, rassurez-vous. Merci beaucoup, Rénald et Sécher et Guillaume Golfier. Je me tourne très rapidement vers le pauvre Jean-Michel Rudan qui devait passer dans la partie de Serge. Et puis Serge, pensant qu'il allait passer chez moi, dit « Tiens, hop !» Et puis voilà, malheureusement, vers une patience, mais c'est excellent. De toute façon, ce qui compte à ce moment de la soirée, c'est plutôt de donner une information brève et surtout de mobiliser un petit peu les auditeurs. Alors, vous êtes venu parce que vous êtes responsable de l'association Pèlerinage de Chrétienté et que, concomitamment avec une autre association qui s'appelle la Confrérie Sainte-Clotilde, vous organisez pour la première fois un grand rassemblement de piété nationale à Vivière qui va se dérouler le dimanche 26 juin 1994 en l'honneur de Sainte Clotilde, marraine de la patrie. Alors ça, je veux dire, c'est épatant, parce qu'effectivement, ça fait partie de toutes les préparations militantes, intellectuelles, psychologiques et spirituelles pour notre 15e
centenaire du baptême de la France. Oui, donc cette année, nous donnons un éclat un petit peu particulier à ce rassemblement qui a lieu, je dirais, donc chaque année depuis 1959, au moins, depuis la fondation d'une confrérie, donc Sainte-Clotilde, qui a été fondée en 59, pour honorer tous les ans la mémoire de Sainte-Clotilde, marraine de la France, dans l'église paroissiale du village de Vivière, dans l'Aisne, qui se trouve donc à quelques dizaines de kilomètres de Paris à peine, et qui abrite les dernières reliques connues de Sainte-Clotilde, en particulier donc son chef et un bras. Ce sont des reliques qui ont été conservées là, un petit peu, je dirais, par hasard, puisque donc Sainte Clotilde, qui a survécu à son époux Clovis un certain nombre d'années, a été ensevelie à ses côtés dans une église proche de la montagne Sainte-Geneviève. Et lors de l'invasion des Normands au IXe siècle, enfin de la menace d'invasion des Normands jusqu'à Paris au IXe siècle, il a été jugé plus prudent de transférer les reliques de Sainte Clotilde, à l'époque donc dans un château fort qui se trouvait à Vivières. Et lorsque les Normands sont repartis, on a voulu faire revenir ces fameuses reliques, et les habitants de Vivières s'étaient entre-temps attachés évidemment à ce souvenir de la grande sainte, et ont demandé à garder une partie de ces reliques, et ça leur a été accordé. Donc le corps de Sainte Clotilde, la partie principale, était donc revenu à Paris, et dans la tourmente révolutionnaire a été brûlé, donc ça a disparu, on ne sait pas très très bien exactement ce que c'est devenu. Donc voilà la raison principale. Il s'agit donc d'honorer la sainte de la patrie qui est Sainte Clotilde. Et donc cette année s'allie à cette piété annuelle le mouvement donc auquel j'appartiens, donc Chrétienté et Solidarité, le Centre Charlier, et donc pour la partie d'organisation, donc Pèlerinage de Chrétienté, qui sait monter donc ce genre de choses. Bon, cette année nous attendons plusieurs dizaines de personnes, donc nous espérons même dépasser les 500. Donc l'important dans cette démarche est de venir marquer notre attachement et notre piété envers Sainte Clotilde, comme vous le disiez, donc dans la perspective du 15e centenaire de baptême de la France à Reims, qui aura lieu dans 2 ans. Et l'année prochaine, donc à mi-chemin, à partir d'aujourd'hui, nous organiserons une marche également de piété à Don Rémy. Donc nous pourrons rendre un culte à la chapelle qui a été restaurée par nos amis du chapitre
Saint-Michel. Voilà, vous voyez que ce soir, c'est plein de synergies partout, et tous les morceaux, toutes les parties de cette émission puzzle s'imbriquent très bien les unes dans les autres. Donc on ne peut bien sûr que inviter nos amis à se rendre à ce rassemblement de piété nationale à Vivières. Donc c'est le dimanche 26 juin, en l'honneur de Sainte Clotilde, organisé donc conjointement par les Pèlerinages de Chrétienté et l'association Confrérie Sainte Clotilde. Alors je donne l'adresse Pèlerinage de Chrétienté, c'est 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris. Donc Pèlerinage de Chrétienté, 70 boulevard Saint-Germain, 46 33 18 97. Voilà, je voudrais juste terminer, parce que nous n'avons plus que 30 secondes malheureusement, pour rappeler donc que l'association Les Amis de Guy Auger fait célébrer une messe le 18 juin 1994 à 18h30 en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Ce sera Monsieur Laurence qui sans doute célébrera cette messe pour notre ami disparu en début d'année, Guy Auger, que nous ont toujours beaucoup de tristesse à évoquer cet événement. Il me reste bien sûr à vous remercier tous de l'effort d'être venus ici, amis du studio, et merci aussi aux éditeurs d'avoir fait l'effort de nous écouter jusqu'à tard dans la nuit. Et il me reste à vous dire à dans 15 jours pour une émission tout à fait encore formidable, et puis surtout vivement le 10 août pour notre duplex.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Françoise Varlet, du 15 juin 1994, diffusé le 1er novembre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros.
Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.